de courtoisie.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 21 janvier de... Oui, on est bien le 21. Jurez-moi, donnez-moi la date. Mercredi, disais-je, 14 janvier 2004, jeudi 15, en différé, je pourrais pas finir, en jeudi 15, bon, de 18h30 à 21h, en différé jeudi 15, dans la nuit de 2h à 5h, et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Après cette entrée en matière brillamment professionnelle, félicitations Victoria, c'était
il ne
un,
reste
un
plus
grand
qu'à
moment.
Me prosterner devant les auditeurs une, et prier de m'excuser, c'est de leur faute, ils font plein de bêtises autour et moi je ne peux plus supporter.
Ah la cafeteuse.
Ah là là, j'ai balancé, voilà, bon, on peut continuer.
Donc bonne année à tous et à toutes, parce que maintenant il faut dire bonne année à tous et à toutes, et chacun tous. Et à chacun et à chacune bien entendu.
Tous s'englobent.
Comme le crétin là. Bon, on va alors je sais pas pourquoi on dit bonne année, parce qu'en fait j'ai remarqué une chose il y a un certain temps déjà, c'est que en fait le 1er janvier change pas grand chose, hein. Pratiquement les choses qui étaient en cours le 31 décembre, ça continue le 1er de janvier, hein.
C'est comme quand on passe la frontière de l'Italie, on voit pas de mortadelle accrochée aux arbres.
Oui, non, ça c'est effectivement. Ah bon, il y a des mortadelliers, mais c'est plutôt dans le sud, hein. Ouais. Donc vous venez d'entendre Patrick Goffin, vous avez déjà entendu pour votre bonheur Victoria. Bravo encore Victoria, c'était
écoutez,
très très bien.
C'était le début du
C'était
année.
Le rap de Victoria.
Il faut bien varier les plaisirs.
Et alors pour vous montrer à quel point les années se suivent et se ressemblent, j'ai fait venir ce soir un panel d'invités, comme on dit quand on est intelligent et cultivé comme moi, un panel d'invités surprise. Alors premièrement, je donne dans l'ordre où ils sont devant moi. Ah non, on va faire pour une fois l'ordre, comment dit-on,
de bienséance,
ou de préséance. Donc premièrement, monsieur le révérend père, comment, vous avez démissionné? Bon bah alors, monsieur le révérend père Argouache, il me fait non, parce qu'il a cru que j'allais dire monsieur l'abbé, il veut pas qu'on l'appelle l'abbé. Donc Jean-Paul Argouache, prêtre, c'est comme ça qu'on dit maintenant. Et après on dit Jean-Paul évêque. Et puis après Jean-Paul, pape.
Et après Popol, tout
après
tout.
Popol, tout quoi. À la droite de l'abbé Argouache. Non, je l'ai dit quand même, hein, pour des raisons strictement géographiques, une autre surprise, Roger Hollande. Bonsoir Roger.
Eh bien bonsoir à tout le monde.
Le micro, c'est l'espèce de truc qui ressemble à une glace
pense,
à la pistache.
Je pense entendu, même si j'étais à 20 cm du micro.
Oui, il y a même une auditrice un jour qui m'a écrit en disant avec Roger, vous pouvez faire l'économie des micros, il suffit d'ouvrir les fenêtres.
Ah bon. Et une autre, dites-lui de se reculer.
Enfin, en tout cas, je remercie Radio Courtoisie parce que les gens qui ne me connaissent pas me reconnaissent. L'autre jour, avant-hier, là, j'étais sur l'autoroute et j'arrive dans une station où je m'arrête régulièrement. Ça fait 20 ans que quand je monte au château, je m'arrête là pour boire un café. Je connais donc tout le personnel de l'entreprise, que, dont certains ont adhéré au front. Je leur donne des tracts, je leur donne tout ce qu'il faut. Ils me connaissent très bien. Et j'arrive, ils étaient là, presque tous à pleurer devant la porte, parce que tout le bistrot avait été vidé pendant la nuit. Mais qui était venu avec un camion, ils avaient défoncé la porte et ils avaient sorti tout le matériel, tout était la machine à laver, la vaisselle, les frigos, tout, la machine à café. Les mecs, ils avaient certainement ouvert un bistrot et ils avaient besoin de matériel. Ils sont venus tout chargés. Alors forcément, j'ai élevé la voix en disant que tout ça se terminerait à coup de fusil et qu'il faudrait peut-être mettre de l'ordre dans notre pauvre pays. Et il y a un gars qui s'est retourné. Mais c'est monsieur. Monsieur Hollande. Je vous connais pas, mais je vous entends à Radio Courtoisie.
Très bonne publicité.
Donc c'est toujours les mêmes qui disent toujours les mêmes choses. D'ailleurs, on va en essayer une preuve supplémentaire. Bonjour docteur.
Bonjour.
Comment allez-vous docteur?
Mais bien.
Alors, je vous ai fait... surprise parce que j'ai oublié de noter votre rendez-vous, vous avez oublié de me rappeler, mais oui. Je vous ai quand même demandé de venir pour annoncer votre...
ça sera très vite fait, donc.
Votre réunion. Si... Attendez, je vais vous donner la parole dans deux minutes.
Ah, pardon.
Et puis je vous réinviterai après parce que vous avez des choses à nous dire.
Ah oui,
vous allez dire que c'est du docteur Dor qu'il s'agit.
J'ai pas dit.
Non.
Je pense que les auditeurs l'auront reconnu quand même. Bon, Victoria, ça va, hein. Alors là, franchement, moi, à votre place, je me tiendrai à 40.
Tout à l'heure, les hostilités.
Et alors, je continue la suite des invités surprises. Ensuite, nous aurons Vinnie Wurmeling, qui est aussi, bon, on ne peut pas dire un habitué de cette émission. L'abbé Cellier, Patrick Goffman, ça s'est fait. Et puis, le Marquis. On va faire la minute du Marquis ce soir. Ça manquait beaucoup aux auditeurs. Il y en a beaucoup qui y réclament. Et donc on va la faire ce soir, voilà, pour la première fois de l'année. Alors docteur, qu'est-ce que vous allez nous faire cette année? Vous allez recommencer à manifester?
C'est-à-dire que oui, nous continuons tous les mois, enfin autant que nous pourrons, pas pendant les grandes vacances, mais là nous continuons et la prochaine est tout simplement demain. Nous sommes aujourd'hui mercredi, ce sera donc jeudi à 19h, au même endroit que la dernière fois. Enfin pour ceux qui ne sauraient pas, c'est à Saint-Ambroise, dans le 11e arrondissement, entre République et Nation, à 19h, donc devant le planning, puisque maintenant c'est notre cible, après avoir été cette fois devant les francs-maçons, le Grand Orient. Eh bien, nous allons là devant nous l'appelons le bras armé de la culture de mort. Ceux qui sèment la mort de toutes les façons, contraception, souvent abortive, contraception, stérilisation, avortement. Enfin, nous mettons ça sur nos prospectus. Alors, venez nombreux, bien entendu. Vous savez, tout le monde sait, enfin, ou alors peut-être ne savent pas trop que c'est l'organisation la plus meurtrière que le monde n'ait jamais connue. C'est-à-dire que ça se chiffre par milliards et on peut pas rester indifférent. J'entendais l'autre jour dire que le problème principal c'était l'immigration. Je veux bien que ce soit très important, mais je pense que la mort de millions et de milliards d'êtres dépasse tout ce qu'on peut imaginer. C'est vraiment sa création qui est défigurée de cette façon.
Et de Sans façon que l'un entraîne l'autre, puisque l'avortement entraîne un déficit démographique. Exactement. La nature est en horreur du vide.
En tuant nos enfants, les autres arrivent. Qu'on se mette à leur place. La France est un pays merveilleux, et donc je dirais intéressant.
Mais bon, enfin, ça, c'est un peu bête comme raisonnement, parce que la France est un pays merveilleux, justement parce que ils sont pas là.
C'est ça.
Ils sont là. Et moi, naturellement, ils n'auront plus de raison de venir.
C'est un suicide, naturellement.
Ah, voilà.
Voilà. Alors demain, je répète donc, à 19h, métro Saint-Ambroise, nous prions pendant 2 heures. On ne fait rien de mal. Il y a beaucoup de police. J'ai signé hier en préfecture, donc il y a tout est en ordre, comme à chaque fois d'ailleurs. Et puis alors. Pour ceux qui voudraient, j'avoue que nous avons quelques problèmes financiers. Je remercie, je ne sais comment remercier ceux qui nous, parfois extrêmement généreux, qui nous envoient de l'argent, mais c'est vrai qu'on a des besoins, surtout les problèmes d'imprimerie. Actuellement, nous avons plus de 1 000 euros d'imprimerie à éponger. Voilà, nous faisons des tracts, nous faisons des autocollants qui sont souvent bien diffusés, et puis aussi des affiches. Voilà. Nous partons à Nantes, je serai samedi à Nantes. Ah oui, pour ceux qui écouteraient ça, bah, nous serons samedi à Nantes à 10h30, ah oui, c'est le moment au fond, à 10h30, une manifestation devant l'hôpital Saint-Jacques, qui fait en même temps d'ailleurs planning, alors ça tombe bien.
Alors docteur, je vous propose de revenir au mois de février pour
quel bonheur.
Alors, faire un topo un peu plus long sur un sujet qui vous tient à cœur en plus, qui est l'euthanasie.
Alors,
si on avait pu en parler ce soir, on l'aurait fait, parce que c'est l'occasion, puisque on est en pleine actualité.
C'est vrai, parce que
la mise en examen des
médecins
et de la mère de ce pauvre garçon. Et mais on en touchera un mot tout à l'heure avec Vinnie Wurmeling, je pense,
Un médecin qui tue est-il encore un médecin? Alors on tue les plus petits, on tue les plus vieux, c'est une folie.
Il y a beaucoup de médecins qui tuent, mais la plupart le font pas exprès. C'est quand ils le font exprès.
Mais ce ne sont plus des médecins, les malheureux. Ils se dégradent eux-mêmes, ils dégradent la profession qu'ils font, c'est horrible.
On parlera de ça au mois de février, docteur.
Merci.
Merci de votre visite.
Merci de votre gentillesse.
Alors, j'allais dire revenons à l'actualité. Non, restons dans l'actualité. On va parler peut-être... Oh, j'ai un truc. Tiens, un auditeur charmant m'a envoyé quelque chose de très rigolo. Il m'a envoyé un journal dans lequel, à la une duquel, on lit « Les oisifs au travail criaient hier les manifestants ». Alors, je dis « Encore une manifestation d'extrême droite contre les chômeurs. » Alors, c'est le journal Combat de la résistance pour le prix à la révolution, clic-clic, du 26 mars 47. Alors, je lis maintenant l'article. Mais d'ailleurs, il faut jamais désespérer parce que tout finit par arriver. Ou tout s'est déjà produit un jour. Les oisifs au travail criaient hier les manifestants de la CGT. Voilà. C'est les manifestants de la CGT qui gueulent contre les chômeurs. Avec une délégation vietnamienne à la tribune, bien entendu. Le syndicat, qui n'est pas communiste, comme on le sait, recevait déjà les ennemis de la France, parce qu'en 47, le Vietnam, la délégation communiste vietnamienne était bien sûr constituée de Viet Minh, qui, trois ans plus tard, allait tuer des Français. Ils étaient invités au congrès de la CGT. On voit que plus ça change et plus c'est pareil. Mais ce qui change quand même, c'est de voir les gars de la CGT manifester en criant les oisifs au travail. Ça vous inspire un commentaire, monsieur Hollande, ou vous en foutez définitivement?
Non, je m'en fous absolument pas, mais de toute façon, il n'y a rien de changé, parce que j'ai vu que les syndicats avaient été hier convoqués pour discuter de façon que les grèves ne soient plus absolues, qu'il y ait quand même des trains qui tournent, enfin qu'il y ait un service continu. Le pays leur a demandé de faire un effort, de réfléchir dans ce sens. Ils sont sortis en disant on fait la grève générale la semaine prochaine.
Mais ça, parce que il a présenté ses vœux l'autre jour, j'entendais les radios qui expliquaient qu'il présentait ses vœux vives de la nation. Alors, je dis qu'est-ce que c'est que les forces vives? Ils ont fini par l'indiquer. Les forces vives, c'était le patronat et les syndicats. Autrement dit, c'est les seuls qui foutent. Le grand patronat, c'est uniquement en détachement. Et les syndicats, c'est des paresseux. Les syndicats, ils sont des paresseux qui ne foutent rien, mais qui empêchent les gens. Il y a deux catégories de gens qui ne foutent rien. C'est ceux qui enseignent un métier et ceux qui font du syndicalisme. En général, c'est dans la presse, en tout cas, les profs de journalisme, ça se recrute parmi les journalistes qui ne sont pas foutus de faire un article. Ouais. Parce que s'ils étaient capables de faire un article, ils les écriraient dans des journaux. Comme ils ne sont pas capables, ils vont apprendre aux autres à ne pas écrire. Et puis si vraiment ils sont incapables même d'apprendre aux autres, alors ils deviennent syndicalistes. On démarre fort pour se faire des amis cette année. Vous avez quelque chose à dire, Marquis?
Je vous rappelle que je suis le président d'honneur du syndicat épique national que j'ai fondé il y a 30 ans.
Oui, mais vous risquez pas de problème parce que le syndicat épique, il n'y a que des chevaux comme adhérents, non?
C'est ça, oui.
Non, mais c'est pas un vrai syndicat, le syndicat épique.
Ben, un peu, si.
Ah bon?
Mais il y a pas mal d'adhérents qui font la grève à Longchamp de temps en temps aussi.
Il y a des gens qui font un cheval sur les principes.
Oui, je suis resté à cheval sur les principes. Si.
Vous montez à cheval,
oui? Oui. Pauvre. C'est l'agricole.
Alors, il y a autre chose qui n'a pas changé dans ce numéro de congrès, c'est un autre titre. Pour que le Trésor, de 47, je rappelle, pour que le Trésor puisse faire face à ses échéances, le gouvernement demande le relèvement des avances permanentes de la Banque de France.
Il est de quand, ce journal?
47.
J'aurais cru qu'il était d'aujourd'hui.
C'est le jour.
Il pourrait le publier aujourd'hui, hein.
Mais on sait que c'est pas un journal d'aujourd'hui parce qu'il n'y a pas le nom de Sarkozy dessus. Ah oui. Un commentaire sur Sarkozy, non?
Mourir en deux. On peut faire un commentaire, parce que c'est pas systématiquement attaquer ce type que de dire que toutes les statistiques qui sont proposées et données aux Français sont totalement bidons, parce que on sait pas ce qui compte ou ce qui ne compte pas dans les, hein. Il paraît que tout va beaucoup mieux, mais que les attaques personnelles, les gens agressés dans la rue, ça n'a pas cessé d'augmenter, bien au contraire. Mais qu'est-ce qui intéresse les gens? C'est ça, en définitive. Tout le reste, on s'en fout complètement. Toutes ces histoires autour de la vitesse sur les routes et tout. Bon, il est bien entendu que je suis pour qu'on condamne très sérieusement, mais c'est pas d'aujourd'hui, on l'a toujours dit, les gens qui prennent le volant et qui sont bourrés, bon, ben, il n'y a qu'à leur retirer le permis de conduire. Mais de là à faire rouler des gens sur autoroute à péage à 120 ou 130 à l'heure, mais c'est totalement ridicule. Même ta voiture ne veut pas obéir. Parce que si tu n'as pas l'œil constamment sur ton compteur, tu te retrouves à 140 ou 140 ou 145 à l'heure. Alors l'autre jour, je disais ça à un gars qui disait, ça m'étonne quand même, monsieur Alain, un homme sérieux comme vous, alors vous voulez rouler à 130, 135 à l'heure. Je dis, mais enfin, monsieur, descendez de votre bicyclette ou de votre trottinette. Nous sommes en l'an 2003, 2004. Ça existe, les voitures. Nous avons aussi un tas de gens qui discutent comme si on était encore en 1914. Le type qui est sous, bon, c'est une chose, le type qui conduit normalement et correctement. Ou alors, il faut que l'État arrête de sortir des voitures qui dépassent le 130 à l'heure. Ouais.
Moi, j'aurais deux commentaires à faire là-dessus. Le premier, c'est un commentaire évident, c'est-à-dire que... Je comprends pas qu'on interdise l'alcool au volant et qu'on limite la vitesse. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui roule très vite? Les gens qui sont complètement bourrés. Mmh. Et plus ils roulent vite, moins ils sont longtemps sur la route. Donc le risque est moindre pour les autres.
Oui, mais enfin, dans les stations-service sur les autoroutes, ils te vendent de l'alcool, ils te vendent un tas de trucs. Alors tu vas au petit bistrot à côté prendre un petit repas, une frite ou une saucisse. Bon, on te donne pas d'alcool ou une bière sans alcool. Et puis à côté, alors tu peux prendre une caisse de pinard, trois caisses de bière si tu veux. Mais tout ça, c'est totalement incohérent. Mais ce que je voudrais dire, parce que les gens bien souvent pensent que mais ils critiquent pour critiquer. Non, moi je critique pas pour critiquer. Je ne suis pas un politicard. Je suis un bon citoyen. Je respecte la loi. Mais je ne peux pas admettre que les dirigeants de mon pays, pour la première fois dans l'histoire du monde, un État, prévoit les amendes qui vont rentrer pour son budget. C'est quand même assez ahurissant.
Roger Olin, vous préconisez le retrait de permis à l'instant. Alors, dites-nous comment vous allez retirer le permis aux 2 millions de conducteurs sans permis.
Oui, mais je vais te répondre en toute franchise que, comme toi, je ne savais pas qu'il y avait 2 millions de personnes qui roulaient sans permis.
Ou avec le permis cité.
Oui, non, mais quand j'ai entendu ça, j'ai été stupéfait. Ben, ces gens-là ont bien des accrochages, même s'il n'y a pas de mort d'homme. Ils ont bien des accrochages. Comment ils font?
Ben, c'est très simple. Il y a un type qui l'a expliqué à la télévision. Il a expliqué la chose de la façon suivante. Il a dit, moi, ça fait 25 ans que je roule sans permis. Il est chauffeur-livreur, le gars. Donc, il sait de quoi il parle. Chauffeur-livreur sans permis, c'est déjà pas mal. Bon. Quand il se fait arrêter pour une infraction quelconque, il dit au policier qui l'arrête, j'ai pas mes papiers. Le policier lui dit, bon, bah, vous vous présenterez demain au commissariat avec vos papiers. Et le lendemain, il téléphone à un copain, il lui dit, tu vas présenter les papiers du véhicule. Et le copain y va, il présente son permis, les papiers, puis c'est réglé, le problème est réglé.
Oui, mais enfin, pour répondre à Kaufmann, et bien sûr, certain que dans une discussion, je ne pouvais pas parler de ça, puisque je te dis, comme toi, j'ai découvert, parce que ça a été annoncé officiellement, qu'il y avait des millions de personnes qui n'avaient pas le permis en France. On peut quand même pas réfléchir avec des salades pareilles.
En tout cas, moi, j'en reviens.
C'est proprement incroyable.
J'en reviens au principe que j'appelle le principe de Klaus, qui est le Klaus étant le patron du restaurant que vous connaissez tous, l'Alzaco. Qui affiche dans son restaurant une petite pancarte sur laquelle il y a marqué 15% des accidents de la route sont provoqués par des ivrognes. Quand est-ce qu'on va se décider à arrêter les 85% qui ne boivent pas? Parce que ça, c'est quand même...
on peut pas discuter. Un mot sur Sarkozy quand même, puisque c'était ça le point de départ. Oui. Il y a quand même des efforts qui ont été faits, et je suis bien placé pour le savoir, parce que vous comme moi, nous connaissons une dame très âgée qui habite à Neuilly. Il y a toujours, si ce n'est plus, de dames âgées qui se font agresser à Neuilly quand elles font leur petite promenade, mais maintenant... quand la plainte a été déposée, elles reçoivent une lettre très gentille de la mairie pour leur dire qu'on va faire ce qu'il fallait et qu'elles soient rassurées. Voilà.
Donc il y a un progrès. Ils essayent de survivre jusqu'aux prochaines élections.
Voilà.
Ce qui est dramatique, et ça, M. Sarkozy ne s'en occupe pas, c'est que la vie des Français, la vie des Français tous les jours, est complètement chamboulée. Que les vieilles personnes ne s'y retrouvent plus. Hein, quand des jeunes Turcs rentrent dans une église à Hayange et qu'au moment de l'élévation, ils interrompent la messe pour faire un appel je ne sais quoi, quand dans une région de l'Est, hein, le pape Fouettard, mais le gars qui remplace le Père Noël dans l'Est de la France,
Saint-Nicolas,
s'est fait agresser dans des quartiers. Par des jeunes bretons, certainement. C'est ça le problème. C'est que notre pays est totalement en train de changer. Justement, aujourd'hui, dans Hénage, dans le numéro qui vient de sortir, et la suite sera la semaine prochaine, j'ai fait une lettre ouverte à monsieur Jamel Debbouze. J'ai fait une longue lettre où je lui explique que je n'en veux pas à son pognon, parce que je lui dis que les gens du Front National se foutent pas mal, qu'ils gagnent de l'argent, puisque l'argent, c'est l'argent du business, du showbiz et tout ça. Bon, si les gens lui donnent de l'argent et lui donnent de telles sommes, c'est certainement parce qu'il leur en fait gagner encore plus.
C'est l'acteur le mieux payé de France.
Mais enfin, c'est pas nous qui le payons et c'est pas l'argent du contribuable. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le gaspillage de l'argent du contribuable. Mais il dit que lorsqu'il y a eu le résultat des élections, sa mère pleurait en repassant ses chemises devant la télévision, parce qu'elle disait ça y est.
D'abord, quand on est milliardaire, c'est assez dégueulasse de faire repasser ses chemises par moment.
Avec la victoire de Le Pen, on va être obligé de retourner au pays. Alors je lui pose la question, enfin, si tous ces gens, vos amis, vos parents sont si malheureux, pourquoi pleurent-ils à l'idée qu'ils vont peut-être un jour être obligés de retourner au pays? Enfin, j'ai fait une longue lettre où je ne me suis pas énervé, où j'ai bien pesé mes mots, mais où je lui dis que je suis français sur une terre chrétienne et que je veux que cette terre reste chrétienne et que moi je n'oublie pas, je n'oublierai jamais que la France était la fille aînée de l'Église. C'est tout un tas de choses que nos dirigeants ne leur disent pas, ne disent jamais rien à tous ces gens-là. Va un peu au Maroc, en Tunisie, en Algérie ou en Arabie Saoudite, rentrer dans une mosquée au moment où l'imam va parler, tu te lèves et t'ouvres ta gueule, tu dis vive ceci ou vive cela, mais ils te tuent sur place, ils te tuent sur place, et ils auront raison. C'est nous qui sommes des imbéciles de permettre ce genre de choses. Mais si on permet ce genre de choses, c'est parce qu'on s'aperçoit quand même, sans attaquer l'Église, nous sommes des chrétiens, nous sommes de l'Église de France, mais cette Église de France travaille pour l'étranger, c'est sûr et certain. Ils ont quand même en avant et toujours à la bouche la préférence étrangère. Enfin, que des gens aillent s'installer dans la basilique Saint-Denis, qui est un des hauts lieux de la royauté française, qui est un des symboles de la France, sans que les curés les foutent à la porte à coups de fric, c'est quand même quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va plus dans notre pays. Et ça n'est ni du racisme, ni de l'antisémitisme, ni de la xénophobie. Ça devrait être une réaction normale de gens normaux. Nous sommes gouvernés par des gens qui sont totalement anormaux. D'ailleurs, je voulais faire un papier, je n'ai pas eu le temps de le faire, parce que je fais une petite brochure dont je vous parlerai tout à l'heure, où je voulais écrire en titre, c'était « Nous sommes vraiment gouvernés par de gros nuls ». Ce sont de gros nuls, hein. Et j'ai vu que mon ami... le patron de Français d'abord, Martial Bild, avait pris un titre à peu près identique. Mais le Français de base, qui croit en son pays, qui croit en la démocratie, puisqu'on ne peut pas ne pas croire en la démocratie, c'est criminel. Bon, quand tu vois un ministre qui dit une chose le matin, un autre qui dit le contraire l'après-midi, le même ministre, le même, qui deux jours après dira encore autre chose. Mais ces imbéciles sont complètement maqués par les trotskistes. Ils sont complètement infiltrés. Tous les services de l'État sont infiltrés par les trotskistes. Hein? Parce que ça ne peut pas se passer autrement. Comment y a-t-il autant de choses qui ne vont pas dans le pays? Nous sommes quand même un pays riche, nous sommes un pays qui peut être respecté s'il veut se faire respecter sur la planète. Nous ne le sommes pas parce qu'on se conduit comme des chiens, comme des imbéciles. Je voyais encore l'autre jour un colloque là, payé par la France, tout se passait en anglais. Mais ça veut dire quoi tout ça? Mais nous sommes des gens calmes, hein, et nous sommes obligés d'être calmes, parce que dès que tu élèves la voix, même dans nos rangs, oh, monsieur Hollande, mais faut pas vous énerver, mais je ne m'énerve pas, monsieur, mais je m'énerve pas, madame, je constate, et le jour où je ne constaterai plus, ben je rejoindrai le troupeau des veaux. Hein, vous pensez qu'il n'y en a pas assez des veaux? Tout le monde dit amen. Hein, tout le monde, enfin pas amen dans le bon sens, mon père. Hein.
Ils sont pas assez des veaux, justement. Cela dit, ça m'inquiète pour Jamal qu'il ait peur de retourner au pays, puisqu'il est l'ami intissime de Mohamed VI. Alors je ne comprends pas qu'il ait peur de retourner au pays et que sa mère la trouille. Il se passe pas 15 jours sans qu'il soit parçu au palais. Alors je comprends pas.
Vous lirez justement la lettre où je lui dis que nous ici, on veut être géré comme le roi du Maroc gère son pays. Voilà. Parce qu'au Maroc, on ne peut pas être embauché si on n'est pas marocain. Il est demande d'emploi. Hein.
Et la nationalité marocaine, c'est pas ça.
Les propositions d'emploi, c'est ouvert uniquement aux Marocains. Ils évidemment. Se disent Marocains pour tel et tel et tel poste.
Mais c'est la même chose dans le monde entier.
Mais dans le monde entier.
Il n'y a qu'en France que règne la préférence étrangère.
Oui, alors comment faire venir des gens qui, au bout de 6 mois, ne foutent rien? On est bien obligé d'en faire venir d'autres pour les remplacer. Hein, puisque le gars qui vient ici comme maçon ou comme menuisier ou comme terrassier, bon, au bout de 3 mois, il s'aperçoit que c'est pas la peine qu'il arrive au boulot, qu'il se casse la tête, puisque à ne rien foutre, il gagnera autant qu'à travailler. Alors on m'a expliqué le fait en Alsace et autres. Hein, les Turcs montent des sociétés. Ils montent des sociétés, puisqu'ils ont le droit. Hein. En plus, ils achètent tout un tas de choses avec l'argent du gouvernement turc. Ils ont des prêts à 0%. Des prêts à 0%.
Ben, c'est des dons, là. Hein.
Oui, non, ils remboursent, mais sans intérêt.
Oui.
Sans intérêt. Donc, ils achètent des boîtes, ils embauchent du personnel, hein, très bien payé, à des salaires corrects. Ils savent combien de temps il faut payer ces gens-là à des salaires corrects. Ils connaissent tout. Et, hein. Et puis, le jour voulu, ils font faillite ou ils ferment et ils mettent tout le monde à la lourde. Et les gens sont payés, d'après les lois françaises, au salaire artificiel qu'ils avaient. Mais enfin, on est gouverné par qui? Nous sommes gouvernés par qui? Tout ce qui nous arrive, c'est parce que nous voulons bien que ça arrive. Le peuple en a marre, mais les dirigeants savent tout ça. Monsieur Sarkozy, il sait ça. Monsieur Chirac, il sait ça. Ah, j'ai vu d'ailleurs tout à l'heure dans Le Monde là, les notes de bouffe de la famille Chirac à la mairie de Paris. Enfin, mais c'est proprement honteux, proprement scandaleux.
Bah, surtout que la tête de veau, ça coûte pas si cher que ça, quand même.
Oui, mais enfin, il y en a pour des millions. Oui. Et les maîtres d'hôtel et tout ça disaient, mais on gonflait.
Le cuisinier vient de dire que c'était de l'argent volé. Il a dit, c'est des fausses factures qui servaient à payer les travaux dans les maisons de
Monsieur Chirac et madame. Jeunes, c'est pour ça que les jeunes...
Pas avec des pièces jaunes.
Alors moi, j'ai volé sac à la vieille. Ils oublient de dire que la vieille en question, elle est tombée, elle s'est cassée la rotule ou elle s'est cassée la... J'ai volé le sac à laver, il y avait 100 balles dedans, alors on va me mettre trop, alors que les autres... Mais c'est sûr et certain.
Il y en a encore dans banlieue qui parlent comme ça?
Oui.
Non, pas comme ça. Enfin, ils disent pas ça. Ah, c'est
sûr et certain. Comme moi, je disais l'autre jour avec un gars là qui ne m'a pas lâché pendant des heures. Au début de la discussion, je trouvais qu'il n'était pas inintéressant. Mais après, il m'a dit, mais enfin, monsieur Hollande, mais pourquoi vous parlez tout le temps, vous allez à droite, à gauche, parlez tout le temps, mais pourquoi vous ne dites pas qu'on va tous les chasser? Mais j'ai dit, monsieur, je ne dis pas qu'on va tous les chasser, parce qu'on ne va pas les chasser.
Bien sûr que non.
Voilà. Alors, c'est plus facile de dire on va les chasser, et puis continuer à se conduire comme des chiens. Mais alors, comment on peut faire? Eh bien, dès demain matin, en vous levant, vous saurez qu'il faut être fier d'être français et qu'il faut se conduire comme un français et se faire respecter. C'est plus difficile hein, que de gueuler, on va tous les foutre à la porte. Mais on ne les foutra pas tous à la porte. Voilà, c'est trop tard et c'est fini. Alors si demain, le Front National, Le Pen et tous nos amis ont une partie du manche dans ce pays, il est bien sûr que nous changerons des choses. Mais la première chose à faire qu'eux ne font pas, nous fermerons les frontières. Une fois que nous aurons fermé les frontières, on pourra peut-être réfléchir
à ceux qui sont là. Il ne
faut pas les fermer dans les deux sens. Hein.
Non, non, mais ne plaisantons pas. Ne plaisantons pas.
C'est pas une plaisanterie.
Non, non, mais ne plaisantons pas sur ces choses, parce que les gens écoutent et les gens posent constamment ce genre de questions. Et dans la lettre ouverte à M. Debbouze, il dit... Tant que vous traiterez les jeunes de banlieue comme des merdes, ils se conduiront comme des merdes. J'emploie ce mot parce que c'est lui qui l'écrit dans Libération. Il l'écrit dans Libération. Et moi, je lui réponds, eh bien, monsieur Debbouze, si jamais un jour la droite nationale et le Front National avaient dans ce pays les pouvoirs qui lui reviennent de droit et qu'elles géraient le pays, eh bien, vos amis ne seraient plus considérés comme des merdes parce que ou ils ne seraient pas là, ou ils seraient obligés de s'intégrer et de respecter nos lois. Voilà la réalité des faits. Parce que là, devant une radio, hein, on peut, à la rigueur, dire beaucoup de choses, mais devant les gens, et devant les gens qui parlent. Et si on se veut responsable politiquement, on ne peut pas balancer n'importe quoi et on ne peut pas dire n'importe quoi. Moi, quand je vais descendre dans le midi pour parler devant les pieds noirs avec des caves, avec
le 24 janvier.
Le 24 janvier et tout. Bon, eh bien, je parle sans papier, ça ne me fait pas peur, mais je pense à l'avance à ce que je vais dire. Et je ne dirai rien pour faire plaisir aux gens. Je crois que nous ne sommes plus à l'époque où on peut faire plaisir aux électeurs pour qu'ils votent pour nous. Je crois qu'il faut dire aux électeurs la vérité. Et si notre vérité ne perce pas, eh bien c'est que notre pays est foutu. Parce que la vérité, c'est qu'il va falloir se conduire comme des grands, comme des hommes, comme des Français, et être respecté. Et moi, je regrette, les Arabes, ils respectent les gens qui sont respectables. S'ils disent que la France, ça ne vaut pas un clou, c'est parce que la France fait en sorte que dans leurs yeux et dans leur tête et dans leur cœur, elle ne vaille pas un clou. Mais ça n'est pas vrai. Hein, parce que les Arabes, hein, quels qu'ils soient, eh bien, ils respectent les gens qui se respectent eux-mêmes. Si les moines en Algérie là, n'avaient pas été plus ou moins des collabos, ils ne les auraient pas flingués. Voilà ce que je pense. Et c'est grave ce que je dis. Mais je suis prêt à aller m'en expliquer devant n'importe quel tribunal. Lorsque j'étais député, je leur ai dit un jour à la tribune de l'Assemblée nationale, vous ne connaissez rien à l'âme arabe. Vous parlez des musulmans, vous ne connaissez rien. Vous ne connaissez rien de l'islam. Parce que tout ça, on ne vous l'a pas appris à l'ENA et ailleurs. Moi, je me suis occupé de jeunes en Algérie. Quand j'ai été blessé, je suis resté civil en Algérie. Parce que moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Mais moi, je parle de choses que j'ai faites. Je parle de choses que j'ai réalisées. Avec ma sœur, avec mon sang, avec mon fric. Et c'est pas d'aujourd'hui que ça date. Eh bien, je leur ai dit, les gosses que j'avais. J'avais une troupe scout, 150 éléments, 98% de petits musulmans, 1% de petits juifs, 1% de petits français. Et moi, le catholique, je faisais en sorte qu'ils respectent leur religion, parce que je n'étais pas là, hein, pour les convertir. Je ne suis pas curé, et c'était aux missionnaires, c'était aux curés d'essayer de les convertir. Moi, les parents me les confiaient, je faisais en sorte qu'ils soient des bons musulmans, et qu'ils respectent et qu'ils aiment la France. J'avais 300 jeunes, 300 autres jeunes, 300 plus 150 ou 180, ça fait un paquet. 98% de jeunes musulmans, au prorata de la population, je répète. 1% de petits juifs, 1% de petits français. Eh bien, j'ai dit à la tribune de l'Assemblée nationale, quand j'avais un problème avec un petit juif, je l'appelais, une bonne engueulade, j'avais la paix pendant 6 mois. Quand j'avais un problème avec un des petits chrétiens, je l'appelais, une bonne engueulade, j'avais la paix pendant 6 mois. Si j'avais un problème avec un petit musulman, bien je l'appelais, je l'aimais autant que le petit chrétien ou que le petit juif. Je ne faisais aucune différence, parce qu'ils étaient, c'était des gosses gentils qui n'ont rien à voir avec les gosses des banlieues d'aujourd'hui. Eh bien, ce petit arabe, s'il savait qu'il méritait un grand coup de pied dans le cul et que je ne lui donne pas, je n'étais pas un type gentil, j'étais un con. Voilà. Eh bien, le jour où nos hommes politiques auront compris ça, eh bien, ils ne diront pas, mais le Hollande, Le Pen et compagnie, ils pensent que les Arabes ne marchent qu'à coup de fric. Ça n'est pas vrai. Ils ne marchent pas qu'à coup de fric. Mais ils respectent les gens qui se font respecter.
Je vais raconter une histoire que j'ai apprise tout récemment. On a une amie qui connaît une mère musulmane qui n'arrivait pas à gérer son petit garçon. Et Elle a essayé de le mettre dans diverses écoles et ça marchait pas. Et finalement, elle a eu l'idée assez saugrenue de le mettre dans une école juive. Elle est allée voir le directeur de l'école juive qui a dit « Oui, moi je veux bien prendre cet enfant. Après tout, on est une école sous contrat, il n'y a pas de raison. » Et donc ce petit arabe, ils sont deux. Deux petits arabes musulmans dans une école juive à Paris. Et donc sa mère lui a demandé comment ça se passe. Et Jean lui dit, mais comment ça se passe? Comment tu es traité? Et il a dit, c'est très très bien parce qu'on travaille, parce que les professeurs, ils sont drôlement sévères. Voilà, c'est tout. Oui. Ça veut dire que c'est évident, mais c'est pas simplement parce que c'est un petit musulman, un petit arabe, ou dans une école juive, c'est tout simplement que des gosses, enfin ça je pense que le père Avoir, je pourrais nous en dire long, les enfants ils ont besoin de se sentir tenus, se sentir guidés, et de se sentir soutenus, et puis de savoir ce qu'ils affrontent, et quand ils affrontent quelqu'un, si ça répond ou si ça répond pas. Et ce gosse, qui était intenable ailleurs, dans cette école, il est impeccable, il se tient très bien. Parce qu'il a l'impression qu'il y a une autorité. C'est pas des copains, c'est des profs. Voilà. Alors que dans les écoles, on voit maintenant les profs qui viennent pleurer en disant ils m'ont secoué les puces, ils m'ont giflé, ils m'ont battu. Ouais. Mais c'est eux qui, après 68, leur ont dit appelle-moi Popol, appelle-moi Émile, appelle-moi Jules, on est copains. Non, on peut pas avoir des relations comme ça. Et que,
je dois dire que la différence de ce qui se passe en France métropolitaine aujourd'hui, parce que l'Algérie, c'était la France, à l'époque où on se battait pour qu'elle reste française, les parents me faisaient entièrement confiance. Et je n'ai jamais eu aucun problème hein, quand je filais une paire de tartes à un gosse qui avait fait une connerie suprême. Le père venait et me disait « Tu as raison, tu as raison ». Alors que maintenant, aujourd'hui, quand un professeur élève la voix, les parents viennent lui casser la tête à la sortie. Et okay. Je suis content qu'ici, et surtout en présence du père qui s'occupe de jeunes, on puisse parler de ce problème, parce que le problème de notre pays, de la France, aujourd'hui, c'est ça. Où nous réglons ce problème, avec tant d'autres problèmes encore à régler, mais où nous réglons celui-là, où ce pays va mourir, notre pays va mourir. Parce que c'est pas... Quand on vient dire, mais ils sont pas intégrés... Moi, je disais tout à l'heure que si nous, on avait le monde, ils seraient intégrés. Mais les autres, ils veulent les intégrer à quoi? À quoi? S'il n'y a plus d'honneur, s'il n'y a plus de patrie, s'il n'y a plus de respect, les intégrer à quoi? Qu'est-ce qu'on peut... Je voyais avec cet accident de montagne à Saint-Cyr. Hein, je connaissais bien Saint-Cyr, j'y suis allé pas mal de fois il y a des années. Bon... Et je n'y suis pas retourné toutes ces dernières années depuis que la France est en pleine chute libre. Mais je me demande ce qu'on peut leur donner comme sens du devoir et comme sens du combat. Alors il n'y aurait que les gens qui font Saint-Cyr ou ces grandes écoles et qui seraient aptes demain à donner leur vie pour la patrie. Parce que il y a 3 ans, je voyais un reportage à Polytechnique hein, où le gars qui présentait, qui était assez militariste, pour une fois le gars de la télé qui disait alors c'est l'honneur, la patrie et tout ça, et la fille qui était la première de la promotion, major de promotion, une fille, une belle gosse, l'honneur, la patrie, tout ça, on n'en a rien à foutre, ce qui nous intéresse, c'est le job qu'on va pouvoir avoir avec le diplôme que l'on a à la sortie d'ici. Et ça m'avait choqué. Voilà, j'en suis encore là, moi. Je suis un pauvre malheureux que ce genre de choses choquent. Nous avons quand même eu la possibilité, étant députés, d'être dans cette Assemblée nationale dont beaucoup de gens rêvent d'y rentrer. Bon, eh bien moi, je peux dire que pendant les mois et les années que nous avons passées, les 2 années et quelques que nous avons passées à l'Assemblée nationale, tous les discours que j'ai entendus dans la bouche de tous ces messieurs, ça aurait pu être à l'Assemblée grecque, à l'Assemblée allemande, à l'Assemblée, n'importe quelle autre Assemblée, c'était une Assemblée anationale. Il n'y avait rien de national dans tout ce qu'on entendait. Et comment peut-on gérer un pays sans le gérer nationalement et en espérant quoi? Nous emmenons notre jeunesse vers quoi? Un steak supplémentaire, un peu plus de bouffe, hein? On leur garantira que la drogue sera surveillée par les toubis qui viendront à l'œil voir que dans les raves parties, on leur vend pas de la merde, qu'on leur vend de la bonne drogue. Alors là, attention, hein? Il s'agit pas de vendre à nos jeunes de la drogue frelatée. Non mais on rêve ou quoi? On rêve! Hein, c'est pour ça que je fais le 9 mai. Et c'est pour ça que j'ai demandé l'autorisation à notre ami de venir ce soir. Parce que le 9 mai, hein, eh bien, il y a janvier. Nous sommes le 15 janvier. Février, mars, avril. Il y a 4 mois pour préparer le 9 mai. Et le 9 mai, c'est la fin de la guerre d'Indochine. Les 50 ans de la fin de la guerre d'Indochine et les 50 ans de la chute de Dien Bien Phu. Mais moi, je dis que ces gars qui sont tombés là-bas, ils ne sont pas tombés pour que la France soit ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, je ne demande pas aux gens de venir goguenards. Là, il y aura à bouffer, il y aura de la viande, il y aura le méchoué, mais il y aura la manifestation de l'après-midi dans le parc du château. Et il ne s'agira pas d'y venir en blue jean ou en dégueulasse. Je veux en faire une manifestation de l'honneur, du souvenir. Parce qu'enfin, merde, tous ces types y croyaient. Et ils sont tombés pour quelque chose. Ils n'ont rien à voir avec la France d'aujourd'hui. Ils n'ont rien à voir avec les gens qui nous gouvernent. Nous sommes un autre monde. Et moi, qui les représente au même titre que des milliers de survivants qui les représentons, eh bien, nous ne voulons pas qu'ils soient mélangés à cette racaille. Ils n'ont rien à voir avec cette racaille. Alors les gens pourront pas dire qu'ils avaient un rendez-vous avec leur belle-mère, ils avaient un truc en province, ils avaient prévu un bal avec les copains de l'école le 9 mai, hein, le dimanche 9 mai. Si on ne fait pas 4 ou 5 000 personnes au château, eh bien, il n'y a plus qu'à raccrocher. Moi, je raccrocherai. 4 mois à l'avance, je leur dis, venez, on va saluer, 50 ans après, ceux qui sont morts, et tous ceux qui sont morts depuis, en Algérie, entre autres. Mais il y en a marre de tout ça. Il y en a marre des fantaisistes. Il y en a marre des gens qui disent, oh, mais c'est à 200 kilomètres. Hein, des voitures, il y en a en vente partout. Les voitures, elles ont un volant, 4 roues, et l'essence, jusqu'à preuve du contraire, elle n'est pas rationnée. Il faut 1h30 pour monter au château. 1h30 pour monter en Sologne. Et moi, comme je ne suis pas qu'à moitié fou, que je le suis complètement, eh bien, j'ai fait le monument aux morts. Il existe. Il est là, dans le pré, face au grand large, face à la plaine, à tous les soldats de l'armée française trahis de toute race et de toute religion, trahis par ceux qui les ont envoyés au combat. Eh bien, voilà, c'est ça que je crois, moi. C'est en ça que je crois. Et je ferai appel à ceux qui croient en cela. Ceux qui ne croient pas cela ne peuvent pas dire qu'ils vont sauver la France. Ça n'est pas vrai. Ils resteront le cul devant leur télé. Quand je vais, par exemple, dans les grandes surfaces, à côté du château, là-bas, que je vois les mémères qui sortent avec un chariot de bouffe où il y a tout là-dedans, et le pépère avec ses 50 litres ou ses 30 litres hein, de marnia ou de vin pourri, ben j'ai dit, ces gens-là, entre le pinard et le frigo qui est plein, eh bien, les Arabes peuvent prendre le pouvoir en France, ils en ont rien à foutre. Ils sont foutus. C'est foutu. Et moi, je me bats pour que tout ça ne soit pas foutu. Moi, je crois à la France. Je crois en notre pays. Et quand je dis moi, je parle pour nous. Je parle pour les gens qui se battent. Moi, je ne sais pas si je serai élu demain. Je ne me suis jamais battu pour être élu. Je le serai certainement. Mais si je ne suis pas élu, ça ne m'empêchera pas de continuer le combat. Ce qui m'importe, hein, c'est de sauver ce qui peut être sauvé. Et si je suis avec Le Pen, c'est pour ça. Et pas pour autre chose. Il y a quelques années, nous avons fait un tintouin incroyable. On a été cassé la gueule aux acteurs, à l'Odéon, parce qu'ils jouaient les paravents. C'était une pièce insultante envers l'armée française. Eh bien, c'est reparti. Ils reprennent les paravents. Et puis c'est M. Dick Rivers qui aurait mieux fait d'aller se coucher, hein, qui fait le rôle du lieutenant. Le lieutenant de l'armée française à qui un légionnaire pète au nez en disant « Tiens, avant de crever, sent encore un peu l'odeur du pays. » C'est ça, les paravents. Et c'est là qu'on a été leur péter la gueule, qu'on a tout foutu en l'air. Bien, est-ce qu'il faudra le refaire? Je pense qu'on le refera. Je pense qu'on le refera. Ne serait-ce que pour dire à tous ces gens-là qu'il y en a marre. Qu'il y en a marre. Et Le Pen a entièrement raison quand il disait à Mme Delvasse, on en a marre. Et c'est ça. Et je crois que de plus en plus de Français en ont marre. Voilà ce que je voulais dire ce soir, et je te remercie de m'avoir permis de le dire.
Je te remercie, Roger, d'être venu le dire. Et puis, je pense qu'il y a aussi une autre façon de témoigner qu'on en a marre, c'est, pour ceux qui aiment ça, de voter dans le bon trou.
Et même oui, pour les autres.
C'était
même pour les autres.
Cette fois-ci, je pense que s'il n'y a pas un bon shoot, là...
Mais je crois qu'il disait ça, voter dur, voter mou, mais voter dans le trou. Merci, Roger. Et puis, on reparlera du 9 mai, et on, bien sûr, dans cette émission, on soutiendra cette initiative à laquelle nous serons présents. bien que assez casanier, j'évite de sortir du périphérique parce que.
Bah, si, si, si ton émission veut faire une émission en partant du château ce jour-là.
Hein. Ça, techniquement, ça me paraît relever de l'onirisme.
Mais en tout cas, la présence réelle de Serge de Beketch, il s'y est engagé en public, là, devant plusieurs centaines de milliers d'auditeurs. Il pourra plus dédier.
La présence réelle, on aura tout entendu dans cette émission.
On n'aura pas l'occasion de reparler de la réunion à laquelle vous faisiez allusion tous les deux tout à l'heure. Alors, je précise que c'est une réunion organisée par le Cercle National des Rapatriés, 690 avenue de Vaugrenier, à Villeneuve-Loubet, 06, c'est les Alpes-Maritimes. Donc, le samedi 24 janvier, de 9h à 18h30, toute une journée du souvenir, donc des rapatriés, avec Jean-Jacques Susini, Pierre Descaves, Roger Olindre, Michel Jiménez et Jean-Marie Le Pen, invité d'honneur. Entrée, 5 euros. Enchaînons, mon cher Serge, je suis arrivé en bas de ma petite annonce.
C'est gentil d'être allé jusqu'en bas, mon cher Patrick Goffman, pendant que le père Argouche s'en va, alors, sans avoir parlé.
Sans avoir parlé.
Mais
oui.
Il va revenir. Vinny Vermeling.
Oui, présent.
Vous avez la parole, cher camarade. Alors, oui. Je t'ai demandé, parce qu'on se tutoie depuis tellement longtemps qu'on ne va pas faire semblant. Je t'ai demandé de venir ce soir parce que, étant un utilisateur d'Internet, je reçois, mais il n'y a pas que les utilisateurs d'Internet qui le reçoivent, je reçois un texte d'information que tu envoies à ceux qui soutiennent ton action et qui s'appelle SOS Maman, journal de bord. Je dois dire que...
Non, pas de mort.
De bord, non, oui. J'ai bien dit de bord. Et pas de bord, l'inventeur de la société du spectacle. Journal de bord. Et je dois dire que j'ai lu beaucoup de choses dans ma vie, qui commence à être longue. Et des choses émouvantes, des choses passionnantes, des choses troublantes, intéressantes. Mais là, ça, ce document, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Alors, je lis depuis le début et je me dis c'est pas possible que ça tombe comme ça dans le vide et que ça ne donne pas lieu à, je sais pas, une publication ou publication régulière ou un livre, je ne sais pas. Il faudra réfléchir à ça. Mais avant de réfléchir à ça, j'aimerais que tu nous expliques, Vinny, ce que c'est que ce journal de bord de SOS Maman.
Oui, c'est chaque soir, quand il se passe des choses, on les marque. Et ça, depuis le 15 août l'an dernier, parce qu'il y a tellement d'événements que sur 75 mamans qu'on a aidées entre-temps...
Alors, tu pars un peu en aval, là.
Oui.
Je crois qu'il faudrait
comme
que
ça.
Tu expliques d'abord... Non, tu parles bien dans le micro,
d'accord.
Mais que tu expliques d'abord ce que c'est qu'SOS Maman,
oui.
Et ensuite, pourquoi tu as fait ce journal de bord.
Bon, SOS Maman, c'est simplement une œuvre à l'intérieur de l'UNEC pour aider les mamans en risque immédiat d'avortement. Hein? Alors, on avait fait des tracts, on avait des réunions, on a fait des manifestations dans la rue, et finalement, il y a une femme, je crois que je vous l'ai déjà dit ici, qui nous a dit, mais vous avez déjà parlé, vous avez déjà aidé une femme qui est devant cette terrible chose qui s'appelle, avec le petit nom IVG, mais qui est l'avortement. Et nous n'avons pas pu répondre, nous sommes rentrés en nous et on a dit cette femme elle a raison. Il faut qu'on fasse quelque chose. Si l'on lève sa voix en public contre l'avortement, il faut tout d'abord agir contre l'avortement. Et ça veut dire aider ces pauvres femmes et jeunes filles, de plus en plus des jeunes filles, des lycéennes, oui, des filles jusqu'à 13 ans, 12 ans. Les moins jeunes qu'on avait, c'est deux filles de 12 ans qui ont déjà accouché entre-temps des merveilleux bébés. Alors, ce n'est pas un thème entre d'autres. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le bishop, c'est l'évêque Burke qui l'a dit la semaine dernière dans le diocèse de La Crosse en Wisconsin en USA. Il a écrit une lettre officielle à tous les membres de son diocèse. Ceci est le thème le plus fondamental, le thème de la vie. L'avortement, c'est le thème de décision pour toutes les élections. Et là-dessus, il a excommunié tous les élus qui officiellement signe ou vote pour l'avortement. Alors, il a dit, il y en avait surtout trois. Je les ai invités, ils sont pas venus. Je leur ai dit, c'est une chose essentielle, il faut changer d'avis. Ils ont dit, oh, c'est un thème entre d'autres, il y a quand même beaucoup d'autres thèmes importants. Et là-dessus, il a écrit dans cette lettre, non, il se trompe. C'est le thème des thèmes. Sans la vie, il n'y a rien autre. Et sans le oui à la vie, il n'y a que la mort. Donc, je ordonne tous mes prêtres, dès qu'un de ces élus connus soit municipaux, soit en fin de région, tout ce qu'il y a là-bas, s'approchent du banc de communion, vous refuserez la communion.
Serge, alors, je ne peux pas s'étonner, une parenthèse, que l'évêque de La Crosse ait autant d'autorité.
Vous le connaissez ou non?
Non, mais je sais que l'évêque, l'insigne de l'évêque...
Oui, c'est vrai.
C'est la crosse.
C'est le beau nom français, la crosse. Du bon vieux temps, c'est un peu au nord de Chicago, vous voyez. Bon, alors, mais il n'est pas connu en Europe. Il était plusieurs fois à Gricigliano, pour ceux à qui ça dit quelque chose, l'Institut de Christ Roi. Bon, n'importe. Nous, à l'UNEC, on a dit, bon, on va s'attaquer à la chose la plus importante. Alors, la première année, on a ramé. La deuxième année, on a eu deux contact, deux femmes qu'on a aidées, mais c'était formidable parce que l'une était martiniquaise, elle nous a trouvé cinq autres mamans, et l'autre, c'est notre Isabelle, et elle nous a fait entre-temps trouver 40 autres mamans. Oui, donc c'était pas.
Alors quand tu dis 40 autres mamans, c'est 40 autres jeunes femmes qui étaient sur le point de recourir à l'avortement, et qui, parce qu'elles ont trouvé une aide. Non seulement amicale, spirituelle, mais une aide financière, ont renoncé à ça.
Oui, et on s'approche même pas en moralisant, on ne dit pas il ne faut pas faire ça, etc. Non, écoutez, regardez là, une fille, hein, par exemple Myriam, je donne un exemple tout récent. Myriam se trouve dans la rue, repoussée par sa famille, son copain, parce que on parle même plus de mariage dans tous ces contextes-là, hein, son copain, quand il a entendu qu'elle est enceinte, il l'a quitté, il est parti au service militaire, bon, absent, et la famille l'a chassé dans la rue. On l'a trouvé à 2h la nuit, avenue de Clichy. Bon, il fallait tout de suite trouver une solution, la loger, finalement, on l'a logée déjà chez nous, c'est-à-dire chez Isabelle, la première nuit, deuxième nuit dans un logement. Et finalement, elle est retournée quand même chez ses parents, mais ça s'est très bien passé. Et il y a 2 semaines, on a eu un coup de téléphone, et ça c'est le cas le plus grave qu'on a jamais vécu. Je suis dans une clinique d'avortement de Paris, telle clinique, je suis au 2e étage, sortez-moi de là, mon père m'a forcé ici, ils m'ont déjà donné les premiers médicaments pour les RU 486, pour préparation, arrivé par le sous-sol parce qu'ils vous rattrapent au rez-de-chaussée. Et on est arrivé à 2h la nuit, par le sous-sol. On a mis le manteau sur elle, notre manteau. Enfin, j'étais pas moi-même là.
C'était une majeure ou une mineure?
C'était 17 ans. 17 ans. Et on a sorti de là, et tout de suite chez un médecin, un médecin ami, qui lui a fait tout cracher ce qu'elle avait dans le ventre. Vous voyez un peu, hein? Elle a dit, sortez-moi de là. Et ensuite, on l'a mis dans le train le lendemain matin, tout de suite à la Côte d'Azur, parce que c'était, je dis pas la ville, parce que naturellement, le père furieux, il la cherchait. D'accord? Mais vous voyez un peu, comme, alors, il n'y a pas à moraliser, il y a à aider. Vous comprenez? Alors, une fille qui veut avorter, elle est souvent plus contre l'avortement que nous. Mais il faut voir les situations. Comment, par exemple, une mineure, comment veut-elle payer les examens? Comment veut-elle payer les prises de sang, l'échographie, 53 euros, par exemple, consultation, 25 euros, prise de sang, analyse de sang, 40 euros. Tout ça, c'est nécessaire pour une grossesse. Mais elle n'a rien, cette fille-là. Elle n'a que la sécurité sociale des parents. Les parents sont contre. Ils veulent qu'elle avorte. Alors, aujourd'hui, on se trouve en France en cette situation qu'une mineure dont les parents veulent qu'elle avorte, elle n'a aucun choix. Elle doit tout payer de sa poche. C'est même la seule personne...
Si elle ne veut pas se faire avorter.
Voilà.
Si elle accepte, tout est gratuit.
Si elle accepte, tout roule tout seul, n'est-ce pas? Il y a même un numéro spécial, Sécurité sociale. Je l'ai, ce numéro. Je l'ai trouvé au Val d'Oise. Ça commence par 02, etc. C'est un numéro pour toutes les filles qui, contre la vie de leurs parents, veulent avorter. Tout est pris en charge. Zéro. Mais la fille qui veut garder la vie, qui veut garder son bébé contre la vie de tout le monde, il faut qu'elle paye tout. C'est même la seule personne en France qui paye l'échographie. C'est quand même un monde. Et ça s'appelle le libre choix. Alors donc nous, on est beaucoup moins confrontés à persuader les filles que c'est mauvais. Non, il faut aider. Vous savez, un billet de 20 euros, ça prouve que vous voulez aider. Et si vous rajoutez encore 10 tickets resto, elle dit, là, j'ai un bon contact. Et le lendemain, on en reparle et on voit les problèmes. Parfois, ça va très très loin. Parfois, nous suivons une maman pendant 5 ans. Nous avons commencé il y a 7 ans. Il y a Patricia qu'on a aujourd'hui encore dans un de nos studios à Paris, pour lequel on paye quand même chaque mois 2 500 francs location. Hein. Donc vous voyez un peu la somme, ce que ça fait sur 5 ans. Hein, ça fait une somme énorme. Mais là, on a sauvé les 2 enfants qu'elle a accouchés, qu'on a amenés jusqu'au baptême. Donc c'était une très 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 belle histoire. Mais je veux vous parler encore d'un autre cas très concret, c'était Svetlana. Je crois que j'ai commencé à en parler en novembre. C'était donc une prostituée russe. Et ça fait 2 ans qu'on pense à ça. Qu'est-ce qu'on va faire pour nos 500 filles russes sur les boulevards Maréchaux de Paris? Hein? C'est quand même pas une affaire de police.
Excusez-moi, elles sont 300 000 en Europe, pas seulement russes, hein, des esclaves déportés de l'Est dans des conditions de violence et d'oppression inimaginables. Voilà. C'est-à-dire qu'on en tue régulièrement une devant les autres pour que les autres continuent à aller vendre leur cul au profit de ces macros. Elles sont 300 000 esclaves déportés de l'Est en Europe de l'Ouest.
Vous dites bien esclaves, parce qu'on leur enlève le passeport à l'aéroport. Le soir, tout est fouillé, leur sac à main, il faut tout sortir.
Tu te souviens, pardon, je t'interromps, parce que tu te souviens de ce reportage qui est paru dans Paris Match,
oui,
où on voit les photographies des macros qui, quand les flics viennent vérifier l'identité des filles et demander les papiers des filles, les macs qui sont dans leur voiture sortent avec des sacs en plastique dans lesquels il y a les passeports qu'ils ont confisqués aux filles et les présentent aux flics.
C'est
une complicité objective de la police avec les macros de ces filles. Mais c'est absolument terrifiant. C'est pour ça que quand Zébulon vient faire son guignol à la télévision en racontant qu'il pense à devenir président de la République quand il se rase le matin devant sa glace, il ferait mieux de s'occuper de ces problèmes-là plutôt que venir nous emmerder avec son avenir dont on n'a strictement rien à foutre. C'est quand même honteux qu'un ministre de l'Intérieur dans un pays libre comme la France accepte que ces flics couvre des macros qui sont des assassins, comme le dit Patrick, qui sont des gars qui tuent effectivement les prostituées devant les autres pour impressionner et pour les forcer à rester esclaves. Et le ministre de l'Intérieur le sait, puisque ces flics les contrôlent les papiers qui sont détenus par ces types-là.
Mais ce qui est hallucinant, c'est que la prostitution est autorisée en France, ce qui est lourdement condamné en principe, tant qu'on n'a pas un sarcole terrible aux manettes, c'est précisément le proxénétisme. Et là, un grand journal Paris Match photographie des proxénètes qui se proclament et qui prouvent leur qualité de proxénète aux flics en sortant les papiers des filles, et les flics regardent les papiers et tout ça reprend son cours.
Non mais je vous donne...
Ils rendent les papiers, c'est parce qu'ils ont reçu ordre de rendre les
bien
papiers.
Bien sûr, c'est les pas les flics qui sont en cause.
Les flics qui font leur boulot.
Je vous donne une preuve. Par cette là, on a su pas mal de choses. Ce sont des Géorgiens et des Albanais, surtout. Ils sont à 80 mètres de leur fille, n'est-ce pas? Parfois, il y en a 5 Géorgiens sur une fille. Et ce qu'elle ramène, c'est eux qui le bouffent, c'est eux qui mangent là-dessus, qui font la fête avec ça. D'accord? Et Svetlana en était une. Et elle a dit, surtout vous arrêtez pas en voiture en voulant donner des cartes de visite, etc. Ils sont à 80 mètres, ils prennent votre plaque d'immatriculation en photo, et si je disparais ce soir-là, ils savent c'est une de ces 5 bagnoles qui s'est arrêtée. Et croyez-moi, ils trouvent les adresses. Comment? Je vous laisse deviner. Parce que c'est quand même pas dans le bottin. Hein? Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé, la pauvre Svetlana? Ils ont quand même trouvé notre carte de visite dans la chaussure de Svetlana. Bon, il n'y a pas l'adresse de SOS Maman, mais il y a quand même un numéro avec 06, portable, et puis il y a le prénom de notre assistante. Bon, alors, ils l'ont pris, ils l'ont tabassé, et elle nous a téléphoné aussi de l'hôpital, de venir la voir, elle était tumifiée, etc. Donc on a payé tout ça, on l'a sortie, et c'était là vraiment la sortie du système. Et on a dit, maintenant, il faut que tu téléphones à plus personne, même pas à tes meilleures copines là-dedans, il faut une rupture totale, parce que ça, c'est quand même des gens qui ont à gauche un kalachnikov et à droite un couteau. Et c'est ce qu'elle a fait. Et on a eu un ami chauffeur de taxi qui l'a amené en Bourgogne, 300 km plus loin, boum. Mais les Géorgiens, enfin, tous les noms que je dis ce soir sont faux. Hein. Donc, si je dis Géorgiens, c'est peut-être des Albanais, d'accord? Bon, alors les Géorgiens, on les a trouvés dans la rue, ils ont assailli une jeune fille noire, là, qui distribuait des feuilles, pour les témoins de Jéhovah. Et ils ont dit, vous connaissez SOS Maman, mais... Et elle tombait les nues, elle avait rien à faire. Mais nous, on l'a entendu, donc ils nous cherchent. Vous voyez, ça. Alors, je vous dis, ils ont la Kalachnikov et ils ont le couteau. C'est leur méthode. Et ils ont peut-être aussi un peu de flic. Bon. Alors, donc, ça, c'est un métier quand même très compliqué. J'étais à l'équipe qui s'occupe de Pigalle et j'ai dit qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là sur les boulevards? On peut rien faire, ils parlent que le russe. J'ai dit mais c'est pas une raison pour un catholique. Alors on prend le russe. On apprend le russe. Oh, t'es fou. Bon, on a fait le cours de russe depuis 2 ans. On apprend le russe. Et on va s'occuper de ce problème. C'est impossible que devant notre porte, on a l'esclavage et on dit, ah, on peut rien faire. Moi, je suis pas d'accord. Donc là, c'est le numéro 1. Svetlana est sortie. Elle est heureuse. Elle est à 300 km d'ici. Si on trouve quelqu'un, c'est nous, mais pas elle. Bon, après, je voudrais encore parler de Nadine. Un cas de samedi dernier. Juste pour vous dire un peu. Alors, le journal de bord, c'est ça, hein? Parce que dans 3 ans, on a oublié, donc on le marque. Nadine, une fille à l'aigle. Enfin, une fille, c'est, elle a 40 ans. Elle a un fils de 22 ans. Il est drogué. Il a mis enceinte 3 jeunes filles de son village. C'est un village près de l'Aigle. 3 jeunes filles, une 13 ans, une 14 ans, une 15 ans. Alors on l'a su parce que la maman, elle a dit « Oh, j'en ai marre, je dois quitter le village, je suis montré du doigt ». Mais nous, on s'intéressait quand même maintenant à ces filles-là. Et on a compté, on n'a plus rien dans la caisse et on a dit « Mais non, mon Dieu, c'est pas possible, la première fois, on dit non, on doit dire non ». Et je répète, vous pouvez pas aller vers quelqu'un et dire « Il faut pas avorter sans aider ». Et aider, c'est le porte-monnaie, je le maintiens. L'amour, c'est le porte-monnaie, qu'est-ce que vous voulez, hein? Alors, on n'a plus rien dans la caisse. Et même moins dans la caisse, parce qu'on a un peu remplacé ce qui manquait. Donc, j'ai dit, on va faire un cri d'alarme. Je téléphone à Serge. Faut que je parle sur Radio Courtoisie. Peut-être, il y a quand même, vous savez, Saint-Nicolas, hein, quand il y avait 3 filles en danger au premier étage, il a jeté un petit sac avec des écus d'or par la fenêtre. Il a sauvé 3 filles comme ça. Et on en parle aujourd'hui encore. Hein, après quoi? Après 18 siècles. Hein? Donc, alors, peut-être il y a encore des petits Saint-Nicolas aujourd'hui. Bon, juste pour vous dire, voilà, ça c'est des cas concrets qu'on a. Alors maintenant, en Suisse, il y a quelque chose comme ça. Ça s'appelle aussi SOS Maman. Alors j'ai vu une magnifique chose, ils ont acheté un Mama Mobile. Un Mama Mobile. Oh, une Peugeot Boxer transformée avec une petite table de chaise, une télévision, une petite toilette, une petite bibliothèque. Et voilà, qui se plante devant les avortoirs. Information, IVG. C'est pas mal, hein? C'est pas mal parce que vous savez, dans les hôpitaux, vous trouvez jamais IVG. C'est nulle part marqué. C'est marqué planning familial. Alors il faut se renseigner. C'est très humiliant aussi. Vous savez, oh, je veux avorter. Où est-ce qu'il faut aller? Non, là, c'est devant la porte. Information IVG. C'est super. Alors, toutes les femmes viennent d'abord. Oh, je voudrais avorter. Est-ce que... Ah oui, on peut peut-être vous aider. Tiens, tiens. Alors, ils n'arrivent jamais à l'hôpital. Je trouve que c'est formidable comme idée. Je leur ai demandé combien ça coûte. 60 000 euros. Ça fait quand même 400 000 francs. Ah oui, enfin, transformer et tout.
Bon, oui, ça, il faut quand même être plus explicite, Vinny, parce que... Oui. Information IVG, il donne des informations sur l'IVG, mais surtout, il donne des informations sur les moyens d'y échapper.
Non, mais exactement, hein? c'est notre travail.
Il faut que ça soit bien clair, parce que il y avait une ambiguïté, on pouvait penser que c'était des gens qui expliquaient aux jeunes filles comment accélérer le processus.
Non, les gens, ils pensent...
Il y a eu un moyen d'y remédier, c'est une initiative privée du même genre que la tienne.
Alors, en France, qu'est-ce qu'on... Bon, 75 cas sauvés, 75 enfants sauvés, en fait, 78, parce qu'il y avait 3... jumeaux, donc ça fait 75 mamans, 78 bébés. Mais qu'est-ce que c'est pour la France? C'est vrai, mais la France est un pays catholique. J'ai compté, si un gosse coûte à peu près, pour le sauver, 20 000 francs, c'est à peu près la moyenne de nos enfants, vous voyez quand même, on parle de sommes importantes là, si ça coûte 20 000 francs, et s'il y a 200 000 avortements calculés, j'ai calculé cet après-midi dans un café, eh ben ça fait 100 francs par catholique. Par an, pour terminer l'avortement. Et pas par ces députés, je veux pas dire pire, parce que vraiment, pas par les députés, nous oubliez ça, mais par le bas, par l'amour, par le christianisme, par la main ouverte, par les yeux ouverts, en sortant de notre tour d'ivoire et simplement donnant la main à ces pauvres mamans en difficulté. Voilà notre idée, et ça devrait marcher, pas par une grosse organisation, on n'est pas des communistes, on va pas tout faire hiérarchique. Non, je pense à quelque chose comme SMAGE. Dans chaque ville, peut-être dans chaque arrondissement à Paris, faudrait avoir un petit groupe comme ça. Croyez-moi, Ça se sait, les apothécaires le savent, les docteurs le savent. Et par le bas, on enlève ce fléau. Moi, je crois que c'est une solution et elle n'est pas loin de nous parce qu'on aime tous la vie. Alors, vous savez que nous, on n'a pas le droit de quêter en public, en petite association. Il faut être dans une association de régime public, etc. Alors nous, on a une simple association 1901, hein, donc je quête pas. Mais s'il y a des fous qui veulent quand même donner, des pervers, n'est-ce pas, qui veulent absolument nous aider, alors à ce moment-là, je vous donne quand même les coordonnées un peu, c'est SOS Maman, UNEC, en parenthèse, parce que c'est ça l'association qui existe. SOS Maman, UNEC, UNEC, SOS Maman, parenthèse, UNEC. Alors, boîte postale 70-114 95-210 Saint-Gratien. Voilà. Alors, si vous pouvez nous aider,
il faut que tu le redises,
ça serait très gentil.
Il faut nous que tu redonnes l'adresse, Julie.
Après, oui, nous donnons aussi après un reçu fiscal. Et vous savez qu'il y a une nouvelle législation depuis juillet l'an dernier. Ça intéresse peut-être tout le monde ici aussi pour leur propre association. Maintenant, toutes les associations ont droit, toutes, ont droit de donner un reçu fiscal et celui qui, le donateur, il peut déduire 60% de ce montant directement de l'impôt.
Jusqu'à 20%.
Oui, jusqu'à 20% maintenant.
De l'impôt ou du revenu imposable?
Non, pas du revenu imposable, de l'impôt. C'est incroyable. C'est vraiment un grand geste.
Dans la limite de 20%.
C'est presque deux tiers que l'État remet. Ça, c'est une aide solide quand même pour les associations. Il faut reconnaître et il faut que vous le sachiez. Les donateurs, quand vous donnez 100 francs, vous ne donnez plus que 40, en vérité. C'est vrai. Et on l'a pratiqué. Tous nos reçus sont acceptés. Ils sont avec les formes nécessaires, etc. Et on vous les envoie deux, trois semaines avant la date, en mars, quand il faut.
Alors, redonne-nous l'adresse de l'association.
Et ajoutez l'adresse électronique. Vous avez un site intéressant d'après ce que nous disons.
Oui, c'est vrai, là, oui. Alors, SOS Maman, UNEC, boîte postale 70-114 95-210 Saint-Gratien. Alors, fax, téléphone, non. Alors, internet UNEC @compuserve.com ou mettez Vanado, c'est plus facile. UNEC @vanado.fr.
Voilà. UNEC @wanadoo.fr, ça c'est l'adresse. Voilà. L'adresse email.
Pour remercier les trois qui sont ici autour de la table qui nous aident déjà massivement, c'est-à-dire Serge qui m'ouvre si souvent l'antenne, je remercie beaucoup, mais aussi le père Arguars qui a ouvert ses portes à Riomont pour un garçon de nos familles et c'est une formidable aventure. Il est devenu première de classe, il était le dernier à Paris, etc. Et il est le frère d'un petit bébé qu'on a sauvé. Et c'est comme ça que tout s'est acheminé. Donc c'était une très belle histoire. Et je remercie aussi Roger, qui m'a dit peut-être avec mon château, je peux t'aider aussi un jour. Alors, merci beaucoup de...
Dites-nous, demande cet auditeur, quel doit être le libellé du chèque. UNEC ou
UNEC, SOS Maman.
Maman.
Voilà.
Les deux,
SOS Maman, UNEC. Les deux sont bons.
Les deux sont bien. On peut mettre les deux pour plus de sûreté.
Oui. Merci, Vini.
Bon, merci.
Merci, beaucoup. Bon courage et à bientôt. Puis on reparlera de ce, de ce journal de bord de SOS Maman qui est vraiment quelque chose de tout à fait exceptionnel. C'est ce que nous a raconté ce soir Vini, mais avec beaucoup plus de détails et puis beaucoup plus d'exemples qui sont extraordinairement forts, frappants et émouvants.
Mais merci bien. Je peux dire un dernier mot là.
Oui, bien sûr.
On dit toujours il faut avorter parce que comme ça on liquide le problème. C'est ça ce qu'on dit aux jeunes filles ou aux jeunes femmes. Mais moi je suis convaincu du contraire. C'est le bébé qui règle les problèmes. C'est le bébé, c'est un peu la participation au acte création, c'est une intrusion du divin dans notre vie, chaque bébé, et c'est un peu comme le Christ qui derrière lui laisse plus de choix. C'est ou oui ou non, c'est ou l'égoïsme ou l'amour, c'est ou la vie ou la mort.
Merci Vinny Vermeling. On va changer. Oui, mon petit Victoria. Ah oui, vous voulez donner la parole aux auditeurs, vous êtes
curieux.
Oui,
curieuse. Un tout petit peu, là. Quelqu'un vous demande, que pensez-vous du nouveau préfet issu de l'immigration?
Bon, écoutez, moi, je pense que c'est une imposture, parce que, d'abord, on nous dit que c'est le premier préfet issu d'immigration. C'est pas vrai, il y en a eu beaucoup. Je vais pas demander à Roger d'en faire la liste, mais je suis sûr qu'il a en tête de nombreux noms. J'ai cité ici le cas d'un préfet qui, dans les années 60, je crois, le seul problème, c'est qu'il l'avait nommé dans une région viticole, et que, par conséquent, il était invité à toutes les foires, à toutes les foires au vin, à tous toutes les réunions de d'inauguration et autres. On lui offrait sans arrêt des verres de vin qu'il ne pouvait pas boire, puisque sa religion lui interdisait. Et très discrètement, il posait le verre quelque part, il le tenait à la main pendant toute la réunion, puis ensuite il le posait et s'en allait. Donc ces histoires de premier préfet musulman, c'est un mensonge de plus, enfin un mensonge chiracien de plus, on n'est pas à ça près. D'autre part, je ne suis même pas sûr que ce monsieur soit beaucoup plus musulman que franc-maçon. Je ne suis pas sûr qu'il le soit moins non plus d'ailleurs. Donc ça n'a strictement rien à voir. Il est dans l'ordre des choses que ce monsieur soit préfet, parce que il est chiracien, il sort des bonnes écoles, il assure qu'il a un doctorat. Il y en a d'autres qui sont pas du même avis, ça je ferai une petite enquête là-dessus parce que c'est intéressant. Puis voilà, il est, pour l'instant, non, il n'y a pas de quoi en faire un fromage. En plus, c'est vrai qu'il y a des musulmans en France, je ne vois pas pourquoi ils n'auraient pas accès.
Attendez, on n'a pas entendu, le général de Gaulle avait une secrétaire d'État qui était mademoiselle Sidcara. Hein.
Oui, en plus, alors, voilà. Bon, donc ce n'est pas la première fois qu'il y a un ministre, sous-ministre, un préfet musulman. Tout ça, ça appartient à la propagande. Ça relève de la propagande chiracoïde. Et en plus, c'est même pas de la propagande chiracoïde, c'est juste pour emmerder Sarkozy, puisque Sarkozy a dit on va faire un préfet musulman. L'autre a dit je n'accepterai pas la préférence religieuse, moyennant quoi il le fait derrière. Enfin, c'est des incohérents, mais ce sont des crétins.
Je vous m'accorderai que ça devient compliqué. Avant, il fallait être ou homosexuel, ou franc-maçon, ou juif.
Oui.
Alors maintenant, en plus, ça va peut-être encore aller plus vite.
C'est que le difficile, c'est... Non, il doit y en avoir, d'ailleurs. Enfin, le difficile,
c'est... Que va faire Stéphane Bern ?
Se convertir à l'islam, il n'y a plus que ça. Hein. Il manque que ça.
Oui.
Bon, ben voilà. D'autres lignes, Victoria ?
Un auditeur nous conseille dire aux automobilistes de bien vérifier s'ils ont signé leur certificat d'assurance.
Ah oui.
Dans le cas contraire, c'est 90 euros d'amende. Et ils font une chasse énorme.
Oui, je l'ai déjà dit. Ça. Je l'ai écrit dans le journal et je l'ai dit. Il faut vraiment faire attention à ça. C'est un piège à coin.
J'ai vu à la FNAC une BD éditée chez Dargaud qui s'intitule « Super Cato » et qui, bien entendu, tourne en dérision la religion catholique. Entendu ce soir à la radio.
Oui, ça c'est amusant parce que c'est à rapprocher quand même d'une information récente. Il y a la Redoute à Roubaix. Qui avait sorti un t-shirt avec une espèce de griffonnage sur la poitrine, et un type qui a dit mais ce griffonnage ça veut dire j'atteste qu'Allah est grand et que Mahomet est son prophète. Alors c'est une insulte aux musulmans. D'abord moi je voudrais savoir pourquoi le fait d'écrire sur un t-shirt qui marmonne toute la journée peut être considéré comme une insulte. Enfin bon, ça c'est leur caractère, ils trouvent que c'est une insulte quand ça les arrange, quoi. Quand ça les arrange, ça devient une source de revenus, c'est pas autre chose. Donc il y a eu immédiatement des menaces de poursuite. C'est un peu comme si vous, mon père, vous disiez, quand le gars écrit j'aime Jésus-Christ sur son t-shirt, vous dites à leur redoute, on va vous casser la gueule si vous vendez des t-shirts comme ça, parce que c'est une insulte aux catholiques. Enfin, c'est vraiment des trucs de tordus. En tout cas, la redoute, ils n'ont pas traîné. Ils ont retiré immédiatement de la vente le t-shirt en question. Et la porte-parole de la redoute a eu une phrase que j'ai trouvée admirable. Elle a dit nous ne voulons surtout pas porter atteinte. Nous ne voulons surtout pas froisser les gens, surtout pas les gens de confession musulmane. Les autres, à la rigueur, on s'en fout. Hein. Les catholiques, on peut toujours les froisser, on s'en tape. Mais les musulmans, il faut quand même faire attention. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne donnerai pas d'explication. Il faudrait demander à la redoute.
Bon,
en tout cas,
Pinot n'a jamais été
en ce qui me concerne, j'étais déjà pas client, mais ça risque pas de changer. Voilà.
Les chiffres de la délinquance, nous dit cet auditeur, seraient en forte baisse. Bravo pour le coup de publicité du gouvernement, de qui se moque-t-on ? Quand on veut porter plainte, on vous dispute de l'affaire sous le prétexte que ça sert à rien. Et même dans certains cas, on refuse catégoriquement d'accepter votre plainte, même en main courante. Je sais de quoi
il n'y a pas de plainte en main courante, c'est pas vrai. Enfin, bon. Non, mais il faut que les gens le sachent. Si, quand vous allez au commissariat, quand le, parce que c'est la mode maintenant, vous dites, j'étais agressé dans la rue, on dit, ben, on va porter sur la main courante. Il faut dire, non, non, je porte plainte. Pas de main courante, parce que la main courante, c'est pas compliqué. C'est exactement comme écrire sur des papiers hygiéniques et tirer la chasse derrière. Hein. Ça ne sert strictement à rien.
Vous savez, dans le 18e, quand vous arrivez au commissariat, mais c'est pas une fois, c'est toute la journée. Monsieur l'agent, j'ai été agressé. Est-ce qu'ils avaient un couteau? Non, bon, ben, c'est pas grave.
C'est ça.
L'auditeur dit, ajoute, je sais de quoi je parle, ayant été confronté à 4 agressions en l'espace de 2 mois.
Bon. Oh, vous direz chez lui.
Oui, c'est trop prudent.
Non, mais le jour où il y a eu une tentative, enfin, ma femme a été victime chez nous, dans notre maison, d'une tentative d'étranglement et de viol, quand on est allé au commissariat, quand elle est allée au commissariat pour faire sa déclaration, la fille du commissariat, la fliquette qui était là, a dit, est-ce qu'il a volé quelque chose? Non. Eh ben alors. Est-ce qu'il vous a violé? Non. Eh ben alors, il n'y a pas lieu de porter plainte.
Le seul qui a été condamné, c'est vous, parce que vous avez claqué la porte et vous avez cassé le verre
j'ai
de la porte.
J'ai pas claqué la porte, j'ai arraché la porte du commissariat.
Vous envoyez la facture.
Tellement j'étais en colère.
Les seuls qui étaient condamnés.
Mais c'est quand même extraordinaire, cette histoire. Là, si on vous vole pas, on peut te violer, si on ne vole pas ton portefeuille en même temps, on n'a pas le droit de porter plainte.
Entendu ce soir à la radio, un homme de 56 ans vient de porter plainte contre M. Chirac pour mensonge électoral du fait que M. Chirac avait promis que l'adhésion à l'Union européenne devait se faire par référendum et que bien sûr, une fois élu, ce ne fut plus le cas. Le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent.
Ça fait longtemps que le tribunal d'instance est incompétent.
Et que pensez-vous de cette annonce? Une chaîne panarabe pour enfants fin 2004 avec Lagardère.
Mais c'est comme le voile, pourquoi s'émouvoir de ça? Si on les laisse entrer, pourquoi les empêcher de vivre leur truc? Bien sûr, il y a des millions d'enfants arabes en France et ils ont bien le droit de regarder la télévision aussi. De toute façon, en plus, avec le satellite et le câble, ils peuvent regarder tout ce qu'ils veulent. Donc, pourquoi s'émouvoir de ça? C'est l'histoire du voile. J'ai dit, ça fait 10 ans que j'ai écrit dans le Libre Journal, c'est pas en interdisant le voile qu'on réduira l'immigration, c'est en réduisant l'immigration qu'on fera disparaître le voile. Mais on prend les choses à l'envers. Ça sert à rien et là, c'est... de se battre contre le voile. Qu'est-ce qu'on en a à foutre du voile? Si ça les amuse de se voiler, ça a 3 avantages. D'abord, ça montre qu'elles sont nombreuses. Deuxièmement, comme elles sont en général vilaines, ça les cache. Et troisièmement, ça montre qu'il y a un statut de la femme en islam, ou plutôt un comportement de l'homme en islam, qui ne correspond pas à nos critères à nous. Parce que si les femmes sont obligées de se cacher en islam, si elles sont obligées de se cacher le visage, les mains, les jambes, les cuisses, les genoux, les fesses, les seins, c'est pour des raisons précises. Quand même. Nous, en France, quand il y a une fille qui se balade en monokini sur une plage, il n'y a pas un Français qui lui saute dessus pour la violer, quand même.
Non.
Tandis qu'en islam, dans les pays arabes, elles sont obligées de se mettre du tissu partout. Pourquoi? Je pose la question. Moi, je n'ai pas d'explication, mais il doit bien y avoir une raison. Hein? Pourquoi on met des doubles vitrages devant les bijouteries et pas de double vitrage devant les perceptions? Voilà, c'est tout.
Et merveille des merveilles pour cette chaîne, elle devrait coproduire des programmes avec Canal J.
Mouloud, Lagardère, il gratte à toi.
C'est éclaté. On vous demande, alors plusieurs auditeurs vous demandent, avez-vous des nouvelles de M. Leribaud?
Oui.
Et alors le téléphone en Irlande ne répond plus. Auriez-vous d'autres informations?
Oasiska ne répond plus.
Ça, c'est un auditeur qui utilise le G5.
Leribaud a demandé officiellement au tribunal, au ministre de la Justice suisse, à la ministre de la Justice suisse, l'asile politique parce que, dit-il, s'il vient en France, il risque d'être assassiné. Ce que je crois d'autant plus que j'ai consacré à cette affaire l'éditorial du Libre Journal qui est sorti il y a 2 jours. Ils veulent la peau de Loïc Leribaud. Si on veut savoir plus, on peut le lire.
Il suffit d'envoyer un carnet de timbre à SDB 4 place 36 75 010 Paris. On saura également pourquoi ces employeurs de la CIA avaient surnommé Saddam Hussein les gorgeurs, entre autres informations confidentielles et privilégiées.
Alors en ce qui concerne l'adresse, moi je n'ai le téléphone, je n'ai pas d'avis de changement de téléphone. Ça doit être tout récent, il faut que je vérifie, je n'ai pas eu le temps de le faire puisqu'on m'a déjà signalé cette modification et je publierai la réponse dès que je l'aurai. C'est tout?
C'est tout pour le moment.
On va peut-être, monsieur l'abbé Selguier, si vous le permettez, on va donner la parole au marquis pour changer un petit peu, oui, changer un petit peu de l'atmosphère qui, après Roger et Vigny, était une atmosphère un peu dure, hard, comme on ne dit pas. Vous nous parlez de quel enterrement cette fois-ci?
Il y en a pas.
Ah bon, bah alors ça va, alors on peut rire.
Oui. Vous pensez, Serge, et je l'annonce aux auditeurs pour la, de la même façon, que donc dans 10 minutes, nous atteignons la pause technique et qu'ensuite nous diffusons un reportage à Madagascar qui dure une heure.
Une heure, toute une heure.
Selon vos instructions, Serge.
Oui, il faudra certainement. Enfin, on verra ça. Allez-y, Marquis, à alors, vous.
Bande musique, rien, on y va.
On va gagner du temps.
Oui, voilà. Moi, je vais, une fois de plus, je vais parler à toute allure parce que je suis terrorisé par la pendule. J'aimerais un jour pouvoir parler calmement, mais je finirai bien par y arriver. Surtout que j'ai toujours l'impression après de dire des choses qui ne sont pas capitales. Je veux commencer en disant que je tiens à remercier quelqu'un que j'ai beaucoup attaqué dans le Libre Journal et ailleurs, et qui a eu l'élégance de m'envoyer des vœux qui n'étaient pas des vœux formels, mais qui étaient d'une grande gentillesse. Et je retrouve donc quelqu'un qui est d'abord un très gentil garçon, c'est Charles-Philippe d'Orléans. Voilà.
Oh, bah dis donc, on aura tout vu dans mon émission. On dit du bien d'un Orléans.
C'est peut-être le seul qui le mérite, je sais pas.
Il m'en aura jamais fait d'autre, le marquis. Je le croyais légitimiste. Voilà qui me dit du bien.
Non, j'ai essayé, mais moi ça me convient plus.
Ah bon?
Ça me convient plus. Ce qui est en train de se passer avec le mariage du petit prince, il a sa fiancée vénézuélienne, archimilliardaire. J'avais toujours dit qu'il épouserait un coffre-fort. Je savais pas la nationalité, mais je savais qu'il épouserait un coffre-fort. Elle annonce les fiançailles pour Noël, et lui, à Noël, à la date annoncé par la belle famille, il est en croisière avec la duchesse de Franco, sa grand-mère. Donc on va attendre la suite des événements. Je vous signale que le nouveau bottin mondain est sorti, ça peut vous intéresser. Mais à ce propos, il y a quelque chose de très drôle. Je ne sais pas si vous avez suivi cette émission de télévision qui s'intitulait Respect et qui se voulait être une démonstration des bons usages, des bonnes manières. Il y avait d'ailleurs confusion entre les usages et le respect, parce que c'est pas parce qu'on sait qu'il faut mettre le couteau à poisson à côté du téléphone mobile qu'on est forcément dans le respect. Il y avait un jeu. On posait des questions du genre que doit pas faire une dame dans la rue, fumer, se mettre les doigts dans le nez, se gratter les pieds. Bon, faut pas fumer dans la rue.
C'était pas de gratter les pieds, mais ça fait rien.
Voilà. Oui, quand je vous l'ai dit, c'était pas tout à fait ça. Et il y avait trois catégories de joueurs. Il y avait les VIP qui étaient censés répondre, la salle qui jouait et les gens qui jouaient par téléphone. Les VIP, ce sont ceux qui ont eu une plus mauvaise note. Mais ça devait être truqué, à mon avis. Ben alors, je vous donne en mille ce que gagnait le téléspectateur qui jouait donc par Minitel ou par je ne sais quoi, ou par téléphone. Et le prix, c'était, et je ne sais pas qui a gagné, je me suis endormi avant, et je voudrais bien avoir le résultat, le prix c'était une inscription dans le bottin mondain. Et je me suis endormi en rêvant que le gagnant, ça pourrait par exemple être Mouloud Ben Larbi, appartement 2780, tour Gagarine, avenue Salvador Allende, par exemple. Ça,
cité Lénine.
Voilà. Dans le bottin mondain, ça me réjouirait.
Ça serait bien, non?
Tourneur
sur métaux.
Voilà, c'est ça.
À la Marine Saint-Hilaire.
Ben, on peut aussi le mettre après dans le Wouzvou en donnant tout le détail, dealer, etc. Là, j'avais envie presque de dire la chair blanche de Kersin, faut être un peu sérieux quand même.
On va nous téléphoner de la Varenne Saint-Hilaire, qui est la zone résidentielle du 94.
Et alors, c'est pour ça que les tourneurs sur métaux n'ont pas le droit d'habiter à la Varenne Saint-Hilaire.
Moi, j'avais pris le soin, parce que pour ne pas oublier, j'avais tout marqué, mais j'avais marqué dans une banlieue, mon rêve. Alors, je ne sais toujours pas qui a gagné. Maintenant, si c'est la duchesse de la Rochefoucauld, je vois pas l'intérêt, elle est déjà dans le bottin.
Ça m'étonnerait qu'elle ait téléphoné. Ah, ici, c'est la duchesse de la Rochefoucauld.
Ah, s'il y avait eu un paquet de biscuits à gagner, peut-être. Je vous dirais-je un mot des bonnes œuvres de l'AROP.
Oui, je connais, je sais pas du tout ce que c'est.
L'association pour le rayonnement de l'Opéra de Paris, qui est une très belle association créée par la belle-sœur de Anémone Giscard d'Estaing et qui fait ce qui se fait pour le Metropolitan Opera à New York, du mécénat, ce qui permet en dehors des subventions de monter de très très beaux spectacles parce qu'il y a un apport d'argent. Bon, jusque là, il n'y a rien à dire. Et en plus, il y a toute une gamme de cotisations. Il y a pour les pauvres, pour les étudiants, moyens pauvres et les gens très riches, qui en gros bénéficient à peu près les mêmes avantages. Bon, donc c'est plutôt bien. Mais depuis plusieurs années, cette association décide de faire un Noël pour les enfants de l'AROP. Et moi, je pensais que c'était simplement les enfants des adhérents. Et non, pas du tout. On invite aussi des enfants de quartier déshérités pour les initier à la musique. Et pour la première fois cette année, je suis allé à cette soirée, qui était la soirée Yvan le Terrible, Noël des enfants. Très bien. Et quand je suis arrivé à l'opéra avec mon cartoy, je suis au 7e étage, je monte au 7e étage, et là je vois des traiteurs de très grande qualité, dont je dirais pas le nom, des serveurs en veste blanche, etc., un Père Noël avec sa hotte, des enfants ravissants, les petites filles en smock, les petits garçons des costumes de velours, etc., des mamies très chics, et oh, Cunégonde fait la révérence à monsieur le marquis, gnagnin, bon, très bien. Tout ça était charmant, puis au bout d'un moment, je me dis, mais où ils sont quand même, parce que les gosses pauvres, ça se voit, quoi, ça, on les reconnaît un peu.
Ah oui.
Et comme je connais tout le monde à l'opéra, parce que ça fait pendant 30 ans, j'ai représenté la Société des auteurs, je dis à des postiers, je dis, donc, ils sont où, les Loc Du? Ah, elle me dit, ils sont sous l'amphithéâtre, au rez-de-chaussée, là, faut redescendre. Alors, je redescends, et là, j'ai vu des petits garçons, des petites filles, qui avaient un ballon, comme ça, tout bête, un cornet de frites, et puis un Coca-Cola Light. Voilà. Alors, je voulais simplement dire que se donner bonne conscience de cette façon, c'est quelque chose qui ne me plaît pas du tout.
C'est voilà. Formidable. C'est-à-dire, donc, les riches étaient là-haut avec ouais, et puis les pas mélangés dans la cave.
On les a seulement mélangés pour suivre le spectacle. Seulement, la plupart, surtout ceux qui étaient très bronzés, ont gardé, vous me direz, c'était un balai, donc c'est pas très grave, ont gardé leur Walkman sur la tête pendant enfin, leur baladeur.
Ça leur rappelait la famille.
Oui, je pense, voilà. Alors ça, je voulais parler un peu de la robe. Et puis, une dernière chose, on en parlait hier, je vous ai dit que j'avais tout à fait par hasard regardé l'émission Striptease à la télévision.
Parce que
j'avais aperçu qu'on allait nous montrer des dames âgées qui allaient chez Michou.
Il faut quand même que... Il faut préciser que Striptease, ça n'a absolument rien de...
Ah, c'est pas du Striptease, hein,
de avoir avec le titre. C'est tout simplement une émission qui, intellectuellement... intellectuellement, déshabille les gens. Alors, voilà. Leur système est prodigieux, ils suivent... On m'a raconté qu'ils demandent à des gens l'autorisation de les suivre. Mais ils lui suivent pendant un mois. C'est-à-dire voilà. Que pendant un mois, la personne est sans arrêt accompagnée d'une équipe de télévision. Pendant une heure, on peut se surveiller. Pendant une journée, on peut faire attention. Et pendant un mois, les gens finissent toujours par se déboutonner, d'où le striptease. Et ça donne lieu à des reportages stupéfiants comme celui dont va nous parler le marquis.
Alors, bon, moi, je la regarde pas, mais je jette toujours un œil sur les programmes de télé. Et j'ai vu les mamies chez Michou. Je dis, ça y est, on nous refait le coup. Maintenant, on sait depuis toujours. Enfin, pas depuis toujours, on sait depuis un certain temps que Michou est un homme généreux depuis toujours et qui s'intéresse aux dames âgées parce que c'est sa grand-mère qui l'a élevé et qu'elle n'a pas vu sa réussite, il n'a pas pu lui donner ce qu'il aurait voulu, donc il a fait un transfert. Mais là, c'était pas ça du tout, c'était pas des dames des maisons de retraite moyennes du 18e. Il y a, à Pigalle, une maison de retraite qui s'appelle la Providence, qui est un énorme bâtiment qui fait tout le pâté de maison. Quand on a poussé la lourde porte de chêne, on est comme dans un couvent, il y a une fontaine, il y a des arbres, c'est absolument prodigieux comme endroit, c'est très 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 beau, mais il y a que des gens très friqués qui peuvent y aller. Et il y a trois dames qui s'étaient dit, tiens, on pourrait peut-être aller faire un tour chez Michou. Et alors les caméras les suivent quand elles vont chez le coiffeur, chercher des robes, etc. Et au dernier moment, il y en a une qui dit, je ne peux pas venir parce que mon mari ne veut pas. Et là, on nous montre un vieux schnock de 85 ans, une vieille chouette, qui dit, non, faut pas aller, c'est la porte de l'enfer chez Michou, l'inverse. Enfin, il en fait des tonnes. Et j'ai reconnu quelqu'un qui travaillait dans l'immeuble où j'ai passé mon enfant, je veux dire son nom après tout.
Non, c'est pas la peine. Ça fonctionne plutôt.
Il a été camérier secret depuis 12. Et on le voit dans son appartement de cette maison de retraite. Il y a son portrait en gentilhomme du Vatican, ce que Paul VI a supprimé. Il montre des photos à ses copains, etc. Et il interdit à sa femme d'aller. Et elle n'y va pas. Les deux
alors qu'elle avait, elle avait rêvé de ça toute la journée.
Toute la journée, voilà. Mais moi, ce que je voulais préciser, c'est que ce monsieur, il gagnait sa vie, bien qu'il fût camérier du pape. Et sa fonction, quand j'étais enfant, je le vois encore dans son bureau, qui était face au bureau de mon beau-père, il était secrétaire général de l'Union Vélocipédique de France. Et ben quand on est secrétaire général de l'Union Vélocipédique de France, on n'interdit pas à sa femme d'aller chez les tapettes.
C'est pas tapette que j'aurais dit à votre place.
Les pédales.
Les pédales, oui. Ah ben oui, pourquoi j'ai dit tapette, ça ne veut rien dire.
Ah, ce marquis, les Loc Du. Oh, vous ne l'en ferez jamais d'autres, alors quand même.
Faut pas dire les
Loc Du. Vous pouvez dire les Loc Du autant que vous voulez.
Je crois qu'il reste une minute, Serge. Est-ce qu'on peut annoncer le reportage qui va être
alors,
diffusé?
Alors, ce qu'on va faire, on va diffuser le reportage que vous avez fait à Madagascar. Ouais. C'est pas rien, écoutez-le, parce que c'est intéressant. Il est allé passer son Noël chez les lépreux. Chacun prend son plaisir où il le trouve, après tout. Mais... Non, c'est méchant ce que je dis, parce que c'est une belle histoire. Mais avant, on va quand même écouter le Père Argouache et l'abbé Cellier, et puis ensuite, on diffusera le reportage chez les lépreux. Et le dernier invité que j'avais prévu, je vais aller maintenant m'excuser auprès de lui, parce qu'on ne pourra pas le recevoir ce soir. Voilà. C'est tout? Non? Il reste encore du temps? Oh, pardon. Ben alors, commencez, mon père, père Argouache, vous commencez à nous dire ce pourquoi vous êtes venu. Puis après,
je suis venu d'abord pour souhaiter à tous une sainte année et c'est une année de combat, une année de combat pour la foi, parce que, on l'a entendu depuis tout à l'heure, c'est une sorte de marée épouvantable de un pays barbare qui se met en place. Et il est sûr que tous les petits îlots chrétiens qui croient encore que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur, notre Sauveur, tous ces petits îlots chrétiens, d'abord il faut qu'ils trouvent de plus en plus des amis. Et puis c'est vrai que cette année 2004 sera une année encore décisive pour la France et pour la chrétienté.
Je vous redonne la parole dans 2 minutes.
Bonsoir à nouveau aux auditeurs de Radio Courtoisie dans le monde entier et au-delà. Nous parlions à l'instant, nous retrouvons donc l'abbé Argouarche en attendant dans quelques minutes. Oui, le père Argouarche, vous faites bien Serge. Une belle entrée.
Il déteste qu'on l'appelle l'abbé.
Parce qu'il n'est pas abbé peut-être.
Parce qu'il est religieux, tout simplement.
Religieux.
Voilà.
Ah voilà,
un franciscain, abbé, c'est un bénédictin, un dominicain, il y a des pères et des frères.
Et vous, voilà. Vous êtes quoi alors?
Ah ben, je suis le père Jean-Paul Argouarche, tout simplement.
Ah, c'est vous, le fameux père Argouarche qui passe tout le temps à Radio
Courtoisie. Vous pouvez dire mon frère, on peut signer frère aussi.
Autre surprise, donc, immédiatement après, l'abbé Célie, qui a bien ce titre, lui.
Voilà, c'est l'abbé Célie, voilà, c'est ça.
Mais là, il vient ni comme éditeur, ni comme...
Ah non, moi, je ne sais même pas ce que c'est qu'un livre.
J'espère qu'il n'est pas trop contrarié.
Oui, parce qu'il y a un autre abbé qui s'appelle Célie aussi, qui fait
voilà, l'émission. Mais il est plus connu que moi, mais moi, je suis simplement prêtre.
J'espère que l'abbé Célie, directeur des éditions Clovis, n'est pas trop contrarié de retrouver le calendrier que je lui ai arraché des mains il y a 3 semaines, à la une du Libre Journal qui vient de paraître.
Non, c'est un très beau calendrier, une très belle une.
Je voudrais vous interrompre une seconde parce que c'est extraordinaire. Est-ce que j'ai insulté... Vous avez entendu ce que j'ai dit? Est-ce que j'ai insulté le nouveau préfet?
Non.
J'ai insulté?
Au contraire.
Alors, il y a un message de monsieur qui dit « Avant d'insulter gratuitement le nouveau préfet, renseignez-vous un peu mieux sur ce Kabyle, vous mordrez peut-être alors les doigts. » Je ne suis pas insulté.
Et je voulais justement, quand vous parliez tout à l'heure, vous dire que c'était un berbère. Mais voilà, ce monsieur le dit, bah, bravo, c'est un berbère, tant mieux.
Tant mieux, tant pis, je m'en fous.
Je
ne l'ai pas insulté.
Non, absolument, je suis prêtre et je peux témoigner que, Serge, que vous n'avez pas insulté.
Ah, je suis de mon plein.
J'étais là, il n'y a pas de problème, vous n'avez insulté personne. Bien au contraire.
On a toujours 4 ou 5 auditeurs sur plusieurs centaines de milliers qui présument que vous allez dire ceci ou cela et qui donc sautent sur leur téléscripteur ou leur les copieurs, pour répondre à ce qu'ils présument que vous allez dire.
Bon, bah alors on va laisser la parole...
On presse qu'au riche.
Alors ne m'insultez pas, mon père, j'écoute ce que
surtout
vous dites.
Surtout en début d'année, Serge, repartir avec des bons sentiments, se respecter les uns les autres, sauf l'erreur. Ça, l'erreur, on ne peut pas la respecter, il faut la combattre. Hein. Enfin, pour les personnes, on peut leur pardonner individuellement, mais les idées, non. Voilà. Non, ce que je voulais dire en ce début d'année, c'est qu'il y a quand même des bonnes nouvelles pour Riomont. Vous vous souvenez, Serge, il y a 3 ans, la mort de notre petit Romain, notre petit garçon. Vous savez ce qui s'en est suivi. Une campagne de télévision, une campagne de presse, 25 policiers qui montent sur la colline. Moi-même, je suis embarqué dans une voiture pour être interrogé à Lens avec des policiers autour de moi. Je me suis d'ailleurs demandé si je n'irais pas rester 2 ou 3 jours. Et puis, heureusement, bon, la providence était là. J'ai pu repartir, reprendre la direction du village. Et les interrogatoires ont continué. Et on a voulu créer une affaire pour faire fermer Riomont. C'est-à-dire essayer de prouver que cet enfant s'est tué pour des raisons de violence. Or, comme personne n'avait porté plainte à l'époque pour violence contre mineurs, c'est le substitut de Béthune, du tribunal de Béthune, qui lui-même a porté plainte contre X. Donc on s'est retrouvé avec le père Alain et deux frères à quatre à être interrogés sur des prétendues violences contre les enfants. Et alors, en date de l'épiphanie, le 6 janvier donc 2004, en date de l'épiphanie, c'est très beau, nous avons un non-lieu. Alors il n'y avait pas de charge suffisante, la plainte du substitut n'a pas abouti. Non-lieu pour insuffisance de charge.
Mais alors, il n'y a pas une, il n'y a pas de sanction contre le substitut qui fait perdre son temps à la justice comme ça.
Alors le substitut, non, il n'aura rien. Hein. Et puis, il a quand même fait peser sur nous l'air de la calomnie, hein, parce que évidemment tout ça, ça se sait, surtout dans un pays
ça a dû plaire en
où les fractures sociales et même religieuses sont importantes. Bon.
Ensuite, ses frères ont dû le féliciter.
Ce qui est très bien quand même, c'est que alors l'affaire du jeune Romain, alors elle s'est classée sans suite et c'est versé à la procédure que je viens d'évoquer. Donc il s'agissait bien de monter une affaire pour dire cet enfant s'est tué au fond parce qu'il était dans un climat de violence habituel, que les frères sont des tortionnaires ou des pédophiles, parce que évidemment c'est ce qui a circulé dans les corons, dans les cités, dans les bars. Alors on va pouvoir donc faire état de ce non-lieu. C'est une grande victoire pour la vérité d'abord. Ça, je remercie notre Seigneur Jésus-Christ d'avoir donné auprès de 3 ans ce papier, parce qu'il sert des hommes, comme vous le savez, et on a quand même un non-lieu. Alors ça, c'est très très bien. Pour Riomont, pour nos amis, pour nos bienfaiteurs, pour les enfants, pour les parents, pour tous ceux qui aiment notre petit village. La deuxième chose, c'est je reviens du village breton, du Guerveur, et on a eu un entretien très important avec la DDE sur le devenir du Guerveur.
La DDE, c'est la Direction départementale de l'équipement,
voilà.
Qui surveille la conformité des lieux, voilà. Des locaux, des installations.
Donc ce village abandonné, qui était couvert de lierre, quand je suis arrivé la première fois, eux-mêmes ont voulu faire une visite, mais ils sont embourbés, et ils nous ont raconté qu'ils ne sont pas arrivés au village, c'est vrai, tellement qu'il est paumé, bon, et perdu dans la nature. Et alors, ce qui est très très bien, c'est qu'on est tombé sur des gens très compétents et qui ont compris que ce village sera destiné aux enfants. Donc, tout le monde sait que c'est pour la jeunesse de France et ceux qui donnent, et je les remercie encore du fond du cœur parce qu'ils m'écoutent et je veux leur donner des nouvelles et pour leur dire qu'il y aura un très beau tract qui va paraître avec toute la perspective de sauvetage et de résurrection du village breton. Et je les encourage bien sûr à continuer leur don aux scouts et guides de Riomont, parce qu'il faut faire des toits, il faut faire... Alors, on fera un centre agréé, c'est-à-dire que j'ai la permission de construire, alors que c'est inconstructible puisqu'on est dans les bois, c'est le miracle, j'ai la permission de construire un très beau bâtiment pour recevoir des jeunes en retraite, pour faire de la formation civique et religieuse, ce qui manque tant à la jeunesse de France aujourd'hui.
Et vous allez construire dans le style?
Ah oui, on va pas construire
comme dans le village de
stadium ou je sais pas quoi. Non, on va construire dans le style 18e siècle de ce village qu'on va faire revivre. On fait toute une enquête pour savoir comment on vivait. Il y avait 55 personnes qui vivaient dans ce village et on a trouvé des gens qui sont nés là, qui ont vécu là, qui sont occupés des chevaux, qui sont occupés des moutons. Et on va essayer de faire un article pour montrer qu'en France, au fond, pour que la France ressuscite, j'avais dit ça, je crois, à Chirac Montreuil un jour, il faudrait racheter la France, des parcelles de France. Et chaque fois qu'une école est fondée, une église, l'abbé Cellier va en parler tout à l'heure, à chaque fois, on rachète un bout de la France. Au fond, si tout le monde se cotisait...
Ça existe, on rachète le littoral, il y a des associations qui rachètent des portions du littoral.
Ça c'est, oui, mais pour en faire quoi?
Pour les préserver, pour empêcher qu'on y bétonne, entre autres.
Bon, d'accord. Bon, alors voilà ce que je voulais dire. Et puis l'église va sortir de terre. Là, actuellement, on a un artiste qui est venu, enfin un tailleur de pierre. Il faut qu'on coupe, on a énormément de pierres.
Il y a de moins en moins de chrétiens dans ce pays, mais il y a de plus en plus d'églises.
Alors, les gens disent, mais pourquoi Riomont fait une église alors que les églises sont vides? Seulement, le gros problème, vous le savez, c'est qu'on est fidèle à la messe tridentine et qu'on n'a pas le droit de célébrer cette messe dans l'immense église de Saint-Martin de Liévin, où des laïcs, je rappelle, pour une ville de 35 000 habitants, font des enterrements sans le prêtre. Et puis il y a un tas de paroisses à côté qui sont vides. Et moi-même, quand je fais un enterrement, eh bien, j'assiste à l'enterrement fait par des laïcs. Je suis dans le chœur avec mon étole et puis mon aube, avec mon surplis. Et je n'ai pas le droit même d'encenser le cercueil, puisque c'est l'équipe de laïcs qui doit le faire.
Des cérémonies œcuméniques avec l'assistance de cellules de soutien psychologique.
Voilà.
Sous l'égide de la croix, dans le croissant, comme on a vu lors du reportage sur l'accident de Boeing.
L'église va mal, c'est pas un scoop, mais je vous assure que les frères de Riomont qui sont en mission tous les jours au contact de cette population, eh bien, font beaucoup de bien. On a de plus en plus de gens qui se déclarent chrétiens, qui reviennent. Il y a des gens qui se convertissent au contact de la communauté et au contact de nos enfants qui sont les premiers missionnaires de Riomont. Et je crois que c'est vraiment magnifique et c'est un encouragement pour l'avenir et pour tous ceux qui veulent croire que le christianisme n'est pas mort et que face à l'islam, il n'y a que le christianisme qui peut tenir et repousser l'islam. Dans mon sermon de dimanche dernier, j'ai un peu débordé en disant que à la fin de mon sermon, que le voile islamique n'était que le dessus d'un iceberg et que les 4/5, on ne les voyait pas encore, mais que le bateau de l'Église, qui est bien sûr insubmersible, risque de cogner très 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 fort en France contre cet iceberg. Il faut souhaiter que le bateau prenne pas trop d'eau, parce qu'il va falloir écoper et faire énormément, et que le Christ se réveille. Mais est-ce qu'on va crier?
Je sais pas s'ils sont dormants.
Est-ce qu'on va crier suffisamment comme Saint-Pierre, Seigneur, nous périssons et ça ne vous fait rien, et que le Christ calme un peu cette tempête et redonne courage à tous ces pauvres gens qui sont là. Moi, je les connais, qui sont dans les corons, mais ils ont une image de Lourdes. Il y a un fond chrétien qui a été fait par tous ces prêtres des mines, mais qui était admirable, que j'ai connu. Et ce fond chrétien, il existe encore un petit peu, même s'il y a deux générations qui ont été sacrifiées. Il y a encore une petite, toute petite transmission. Puis la dernière chose que je veux dire, parce que j'ai peu de temps, puis c'est normal, je suis tellement content que vous m'ayez pris comme ça à la dernière minute, c'est vous parler de ce que je veux faire, les gardiens du monde d'or, c'est-à-dire cette petite ligue pour défendre Riomont. Chacun pourrait donner en prélèvement automatique 10 euros par mois, ça fait 10 euros par mois, ça fait 70 francs. Eh bien, on vous nommera gardien du Mont d'Or, parce que Riomont, Auréus Mont, c'est le Mont d'Or. Et en devenant gardien du Mont d'Or, ben, vous permettez à Riomont d'avoir une sorte de sécurité. Et Serge, c'est vous qui m'en avez parlé la première fois. Vous m'avez dit, on va faire le club des 3000. Et depuis que vous avez lancé ça, eh bien, on a eu énormément de lettres. Et ça a pris. Et donc, il faut
toujours beaucoup d'idées pour gagner de l'argent.
Oui, à chaque fois, vous me dites ça, d'ailleurs. Bon, en tout cas, ben, je vous remercie, et puis vraiment de tout cœur, parce que je pense que c'est une bonne solution pour que le bateau de Riomont continue à naviguer et à tenir le coup, parce que c'est un bateau de pierre et de bois, mais qui a au cœur de ce bateau la liturgie, la messe, les anciens rituels. Et c'est vrai que la chapelle est trop petite et que cette église qui va sortir de terre, ça va être magnifique.
On suivra ces travaux avec attention. Maintenant, si on veut participer, vous aider, c'est toujours la même adresse?
Alors oui, c'est toujours la même adresse. Village d'enfants de Riomont, BP 28, 62 801, Liévin-Segdex. Mon nom, tout le monde le connaît. Argoire pour les Bretons,
ouais, c'est un peu,
Argoire pour les Français.
C'est un peu arabe comme nom, je trouve.
Oui, ben oui, mais c'est vrai que je passe pas mal. Ouais. Je passe pas mal, et surtout comme je suis un peu en djellaba, ceux qui me rencontrent sur la route au début me prennent pour un musulman. J'ai droit à beaucoup de signes, et après, évidemment, ils sont un petit peu surpris, mais moi, comme je leur fais des grands signes aussi et des grands sourires, ben je suis prêt à partir pour l'apostolat et à parce que c'est pas grand chose à faire. Je pensais qu'on avait baptisé il y a pas très longtemps un maghrébin qui s'appelait Joseph Benanza, hein, et je suis allé voir son père pour avoir un papier évidemment pour le baptême, et le père m'a dit, mais je ne peux pas aller contre Dieu.
Ah, c'est bien. Ouais.
Et on a baptisé ce garçon il y a déjà quand même quelques années, et je suis très content de baptiser ce petit maghrébin. Donc c'est possible En France.
C'est Bleu Cipour.
Voilà.
Merci,
les,
mon père.
Pour les internautes, riomont.com, un très beau site.
Oui, il faut voir le site, il est superbe. Alors, je me tourne maintenant vers le monsieur l'abbé Séguier, qui est ou qui va être curé de Sainte-Thérèse.
Qui est déjà, puisque nous l'avons déjà acheté le 27 novembre. Nous avons donc conclu. Alors, je viens donc, comme nous l'avons dit, ça n'a rien à voir avec l'édition. Tous les dimanches, je desserre cette communauté de Compiègne et de l'Oise depuis 1999, après bien d'autres prêtres qui m'ont précédé, et le premier étant l'abbé Coache, avec qui a desservi l'Oise, bien sûr, à cette époque-là. Et donc, je veux annoncer une grande nouvelle. Donc, nous avons effectivement acheté au cœur de Compiègne une église, une église, l'église Sainte-Thérèse. Et je voudrais noter trois points qui me semblent très importants. La première, c'est que c'est la mairie de Compiègne, la municipalité de Compiègne, qui nous a vendu cette église. Donc ça, c'est déjà un point très important. C'est une municipalité de 50 000 habitants. Monsieur Marigny, sénateur maire, est un homme important. Il est président de la commission des finances du Sénat. C'est un homme important de l'établissement politique. Et ils nous ont vendu donc cette église. Deuxième point, alors que nous avons soit en location, soit en achat des églises à travers la France, hein, divers lieux, mais c'est toujours à travers des associations un petit peu écran, ou des sociétés civiles immobilières qui, tout le monde sait que c'est la fraternité, mais c'est un petit peu camouflé. Par exemple, y compris à Bordeaux, c'est une association, tout le monde sait que c'est Guéric qui est derrière, mais c'est une association. Ici, ça a été vendu explicitement à la fraternité sacerdotale Saint-Pidis. Hein? Et le troisième point, c'est que la mairie de Compiègne a vendu cette église à la fraternité Saint-Pidis en faisant inclure dans l'acte de vente une obligation de garder cette église au culte.
Alors, donc, vous ne pouvez jamais en faire une boîte de nuit.
On ne peut pas en faire de nuit. Donc, je vous ai apporté ici l'acte de vente. Je vous ai mis en jaune, en surligné jaune. Donc, vous pouvez lire
effectivement. Vendeur, la commune de Compiègne, 6 dans le département de l'Oise, dont la représentation est assurée par M. Philippe Marigny, demeurant à Compiègne, agissant en qualité de sénateur-maire de la dite commune, et en vertu de l'autorisation qui lui a été donnée par le conseil municipal, suivant délibération en date du 28 juin, dont une copie certifiée, etc.
Voilà.
Acquéreur, fraternité sacerdotale Saint-Pidis. Et
alors, qu'est-ce que c'est?
Le vendeur vend à l'acquéreur qui accepte en pleine propriété la chapelle de Bruxelles située à Compiègne, Oise, rue du Bataillon de France. Obligation de l'acquéreur. Le vendeur déclare que l'immeuble acquis était un établissement recevant du public utilisé en qualité de chapelle. L'acquéreur, à la demande expresse du vendeur, s'engage à ne pas utiliser l'immeuble présentement vendu à un autre usage que cultuel.
Donc, si vous voulez, c'est quand même assez extraordinaire. C'est donc un signe de visibilité de la fraternité très très important, c'est-à-dire qu'une mairie assez importante de la région, la grande région d'Île-de-France, la grande région de Paris, vend à la fraternité sous le nom de la fraternité de façon claire et explicite. Le conseil municipal a voté pour la vente à la fraternité, n'est-ce pas? Ils ont voté Fraternité Saint-Pidis, et en plus ils mettent cette obligation qui vient d'un legs. C'est-à-dire que cette église est le fruit d'un legs, et la personne, la veuve de Bruxelles qui a légué cela, a voulu que ça soit une église. Ça a été légué aux hôpitaux de Compiègne. Les hôpitaux de Compiègne l'ont vendu à la mairie en exigeant que le legs soit respecté, et la mairie de Compiègne nous l'a vendu en exigeant que le legs soit respecté. Et bien entendu, évidemment, nous allons respecter cette intention. Et lorsque nous inaugurerons l'église vers mai ou juin, nous célébrerons la messe avec un missel d'autel que j'ai trouvé dans cette église, et qui est le missel romain traditionnel de date 1958, une grande date puisque c'est la naissance d'un grand homme qui est autour de cette table. Ah. Et donc, nous célébrerons la messe avec ce missel dans cette église, sur l'autel de cette église, avec l'ensemble de tout ce qui est dans la sacristie, qui est le culte qui était encore célébré il y a une dizaine d'années, hein, et avec le missel que nous avons reçu comme un héritage, pour que vraiment ça soit la messe traditionnelle toujours célébrée dans cette église donc consacrée à Sainte-Thérèse, puisqu'elle a été construite vers 1925, au moment 1925, c'est la canonisation de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, et donc elle est consacrée à Sainte-Thérèse. C'est une église qui est était annexé à un hospice
le vieillard qui est ensuite devenu un pavillon hospitalier, donc qui a vu beaucoup de malades, beaucoup de gens qui sont morts avec l'aide de l'Église, et nous voulons continuer évidemment cette mission. J'ai apporté quelques photos, vous avez le petit tract, mais Monsieur Goffman, qui est un homme très esthète, pourra donc admirer les photos de cette église Sainte-Thérèse. Donc c'est à Compiègne, c'est pour la communauté de l'Oise, l'ensemble de la communauté de l'Oise. Nous avions effectivement jusqu'ici une belle chapelle prêtée par la mairie depuis 20 ans, mais cette chapelle ne peut pas être vendue parce qu'elle fait partie d'un énorme ensemble culturel, et que d'autre part nous sommes quand même comme l'oiseau sur la branche, c'est-à-dire un jour si le maire change ou n'importe quoi, ils peuvent nous mettre de dehors du jour au lendemain. Donc c'est pour ça qu'avec la communauté, avec les fidèles, j'ai voulu que nous achetions, nous avons donc chercher une église, nous l'avons proposée à la mairie, à la vente. Nous l'avons donc effectivement, une négociation qui a été relativement longue. Et maintenant, nous l'avons. Nous avons quelques travaux à faire, quelques travaux de rénovation, notamment pour faire un petit logement pour le prêtre, pour réinstaller le chauffage. Et puis, cette église avait une emprise sur d'autres bâtiments qui ont été détruits. Et donc, il faut refaire un petit peu l'entrée. Et nous avons donc besoin... C'est un petit peu aussi le but, non seulement d'annoncer cette grande victoire pour la visibilité de la tradition et la rénovation de l'église, c'est quand même une église qui se construit et qui s'ouvre, et c'est quand même une bonne chose, mais également donc un petit peu d'argent pour nous aider, pour subvenir à ces travaux. Évidemment, nos fidèles sont très mobilisés, mais c'est une communauté avec beaucoup de familles, avec beaucoup d'enfants, donc c'est pas toujours facile. Donc si vous pouvez envoyer des dons, donc à l'ordre de l'église Sainte-Thérèse ou de la fraternité Saint-Pédis, comme vous l'entendez, mais enfin, c'est plus sympa à l'ordre de l'église Sainte-Thérèse. Donc, et vous envoyez ça à église Sainte-Thérèse, boîte postale 40-201, boîte postale 40-201, 60-202, Compiègne-Sedex. Donc, église Sainte-Thérèse, boîte postale 40-201, 60-202, Compiègne-Sedex, chèque à l'ordre de l'église Sainte-Thérèse, et vous recevrez un reçu fiscal. Monsieur Vierle-Meling a expliqué qu'effectivement, les reçus fiscaux désormais permettent vraiment de baisser les impôts, et donc à la fois de nous aider, d'aider donc à la rénovation de cette église, mais également de faire baisser ses propres impôts. Oui, donc je vois que... Oui.
Monsieur Abessélier me passe son dossier de presse. Alors, je feuillette ce qu'il voulait me montrer, les belles photos de cette admirable chapelle à l'architecture en bois avec cette espèce de nef de navire renversé, c'est voilà. Admirable. Voilà. Bon, je ne pense pas que Jeanne d'Arc, qui est passée par Compiègne, l'ait vue, mais enfin, je pense qu'elle l'aurait appréciée si elle avait pu la voir. Et puis, je suis indiscret, je continue à feuilleter, et je tombe sur le dossier de presse proprement dit. Et nous avons nos confrères, Serge, vous êtes journaliste.
Non, moi, j'ai pas de confrères dans la presse.
Moi. Bon, moi, je dis encore nos confrères, mais quand même, là, je sursaute, parce que nos confrères du Courrier Picard, titre, Compiègne offre une chapelle aux intégristes. Alors, il y a deux mensonges. Serge, vous avez lu tout à l'heure un extrait de l'acte de vente. Je tourne la page et je trouve l'événement. C'est l'événement.
L'autre, c'est le Parisien.
Par contre, Oise Hebdo, une chapelle pour les catholiques intégristes, un seul mensonge, c'est bien. Et il faut tourner la page pour avoir la véritable information. La fraternité Saint-Pédis
achète
un lieu de culte.
C'est dans quoi, ça?
Ça, c'est dans Oise Hebdo, qui est donc beaucoup plus honnête.
Alors, oui, je précise que l'argent, nous, effectivement, nous payons cette chapelle. Nous la payons au prix prévu par les domaines, etc. Et cet argent va être... La mairie l'a acheté 1 euro symbolique aux hôpitaux de Compiègne. Mais la mairie, dans le même vote où ils ont voté la vente de l'église à la fraternité, a voté que cet argent serait redonné aux hôpitaux pour satisfaire à ce... Et je précise bien entendu que l'opposant absolu à cette vente, qui a combattu cette vente, c'est bien entendu un élu vert, évidemment. Et alors, ce qui est amusant, c'est que la mairie a d'abord acheté cette chapelle, sans savoir ce qu'elle en ferait, pour la préserver, et l'élu vert s'est opposé à cet achat en disant c'est une dépense inutile. Puis quand il s'agit de le vendre avec un fort prix pour récupérer de l'argent, il s'est opposé de nouveau à la vente parce que c'était la fraternité. Voilà, les élus verts.
C'est pas des verts, c'est des oxures, ces gens-là.
On sait, ce sont les mêmes verts qui ont envahi Saint-Nicolas.
Ce sont des oxures, c'est bien ce que je dis.
Serge, puisque nous parlons du développement de la liturgie traditionnelle qui est parfaitement valide, je crois que je suis bien placé pour le souligner, puisqu'elle vient d'être célébrée au Vatican récemment. Je signale également, donc le père Aguirre me laisse un mot pour rappeler aux Parisiens, ceux qui ne peuvent pas aller jusqu'à Compiègne, donc qu'il célébrera à la chapelle expiatoire, que tous les Parisiens qui pensent bien connaissent, donc près de Saint-Augustin, dimanche prochain à 10h30.
Merci Monsieur l'abbé Cellier, merci Patrick Goffman, Victoria.
Deux petits messages, quelqu'un nous dit, la Blanche Porte propose un t-shirt avec une grande croix.
C'est très bien, bravo la Blanche Porte.
Et puis un auditeur se plaint parce qu'on n'a pas lu des messages à Roger Hollande, mais il y en avait beaucoup et puis Roger était parti.
Il y avait 200 messages à Roger.
C'est arrivé trop tard pour qu'on puisse les lire.
Je rappelle l'adresse, église Sainte-Thérèse, boîte postale 40-201. 85 rue du Bataillon de France, joli nom aussi, 60-202, Compiègne-Sedex, chèque à l'ordre de Église Sainte-Thérèse.
Avec une petite chose, ça m'aurait amusé, mais la rue juste à côté, c'est la rue de tous les diables. Et ça m'aurait amusé d'être dans la rue de tous les diables.
C'est très drôle. Vous êtes toujours au créneau du combat, à l'endroit où il faut être. Merci Monsieur l'abbé, à bientôt. À vous, Patrick. Alors, Madagascar, Madame Gaspard, c'était bien?
Madame Gaspard est toujours charmante. Puis je rentre de Madagascar il y a quelques jours et ben, nous ne quittons pas la liturgie catholique puisque un des principaux objets de ce voyage, c'était de passer Noël et notamment la messe de minuit qui a lieu à 18h là-bas parce que la nuit tombe tôt sous les tropiques. Auprès des lépreux de Madagascar qui sont peut-être 4000, 8000 ou peut-être 15000. Nous en parlons aussi parce que la journée mondiale contre la lèpre approche, c'est le 25. Et je vais finir de commencer par des remerciements. Il est plutôt d'usage d'attendre la fin d'un reportage ou d'une émission. Mais là, je tiens à commencer par remercier, puisque donc c'est un reportage assez prolongé. Je pense qu'on va peut-être laisser tomber le dernier quart d'heure où il est surtout question de boxe.
Up to you.
Vous me le direz en cours de route. Bon, ce reportage, les auditeurs l'ont déjà compris, a été monté. Alors, je commence par remercier. Ce n'est pas un remerciement formel. Claudio et Benoît, deux techniciens de la radio, parce que nous avons rencontré certaines difficultés, je ne veux pas embêter les auditeurs avec ça, mais ça a été très difficile. Ils ont passé 4 ou 5 heures à monter ce reportage, tout en assurant leur soirée musicale. Alors, les auditeurs qui se disent que ces gars-là se la coulent douce
et qui font
la sieste entre deux disques d'une heure, non. Ils ont animé leur soirée musicale et ils ont passé des heures et des heures très difficiles pour monter ce reportage. Donc merci à Claudio et Benoît. Je remercie également les personnes qui ont accepté de me parler à Madagascar, le docteur Jeanne-Françoise Ravourizou, le directeur de l'école de la léproserie, monsieur Denis, la sœur Véronique de l'ordre de Saint-Paul de Chartres, que vous allez entendre, Jean-Baptiste, un paysan lépreux de la région de Mananjar, et le docteur Arthur, que j'espère nous entendrons du haut de sa moto, à bord de laquelle il dépiste. Alors, en dernier lieu, je remercie, j'ai reçu de l'aide de l'association Raoul Follereau et je l'ai vue en action à Madagascar. Elle entretient une trentaine de léproseries. Elle fournit les motos qui permettent de dépister la maladie dans la jungle. Et donc, j'ai déjà vu des affiches dans le métro. Elle va se tourner vers vous. Je sais qu'elle a besoin de gens pour faire la quête sur la voie publique. Je suis tellement bien organisé que j'ai pas son numéro de téléphone à Raoul Follereau, mais j'ai son site internet raoul-follereau follereau .org et j'ai également son adresse Raoul Follereau, boîte postale 79 75 015 Paris. Je les remercie également beaucoup. Merci enfin à Radio Courtoisie qui diffuse ce reportage. Nous embarquons pour Tananarive.
Mesdames, Messieurs, nous sommes en approche finale de Tananarive. Il va vérifier que votre ceinture est bien attachée. Merci. Ladies and gentlemen, you're about to land on Tananarive.
Voilà, à présent, on est dans la brousse, hein, il n'y a pas d'autre mot. Une végétation très dense, et puis ce son inimitable, cette musique naturelle des tropiques que je vous laisse écouter quelques instants. Donc, vous entendez comme moi, il se passe toujours quelque chose. Sur le stade, le terrain de basket, plus exactement de Madame Jarry, vous pensez sans doute que c'est une réunion politique? Pas du tout. Ce dimanche 28 décembre, il y a un groupe de variété malgache qui se produit sur ce terrain de basket. La variété malgache vit un peu en circuit fermé et c'est dommage parce qu'elle en vaut bien d'autres, il me semble. Voilà, je pense que le discours du chanteur vous est aussi incompréhensible que pour moi et que la musique va reprendre dans un instant.
Zau ni ramana raga wa, sharu jat sekang ranu, sever fon bentan, zani ramana raga zop. Fadil ada uzai jam farani, meunai zai fatre, ameku katoi zau dan, ef, asam beratungun,
Au microphone, Patrick Goffman. Ce 24 décembre 2003, je vous parle de Tamananjar, à peu près au milieu de la côte est de Madagascar. J'ai donc derrière moi la grande île, environ la superficie de la France et du Benelux réunis, puis les 400 km du canal du Mozambique et l'immense continent africain. Devant moi, l'océan Indien. Je n'y vois pas très bien la première terre puisque c'est l'île de la Réunion et qu'elle est à quelques 800 km à l'est. Pour le moment, je suis dans une espèce de paradis tropical et comme Jean-Yann au début du film « Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil », je commence mon reportage en sirotant un jus d'ananas glacé dans un hôtel de luxe en écoutant les oiseaux chanter. Mais dans quelques minutes, on viendra me chercher pour me conduire en enfer. Du moins, je le suppose, puisque c'est de la léproserie de Mananjar qu'il s'agit. Le sujet de ce reportage étant Noël avec les lépreux. Alors, Madagascar, enfer ou paradis, nous finirons peut-être par découvrir que ce n'est ni l'un ni l'autre, comme il me l'a semblé hier et avant-hier en traversant par des routes en lacets la moitié de la grande île en automobile. Et en découvrant une population souriante et laborieuse, des rizières en terrasses parfaitement entretenues sur des centaines de milliers d'hectares, mais aussi quelques détails alléluia, moins souriants. Alléluia, 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 alléluia,
alléluia, alléluia,
voilà, à un kilomètre du centre-ville de Mananjary, nous arrivons chez les sœurs Saint-Paul de Chartres, ce qui est déjà familier pour beaucoup de nos auditeurs, et nous rencontrons tout de suite, je crois que c'est la patronne, si on peut l'appeler comme ça, sinon la supérieure, sœur Véronique, et c'est surprenant parce que c'est une dame âgée, si elle me permet de le dire. C'est pas une insulte, au contraire, c'est surprenant de voir une dame de cet âge dans un pays aussi chaud, aussi dur, faire un travail aussi dur qu'elle le fait. Et dès qu'elle ouvre la bouche, on reconnaît l'accent de la belle province. Qui êtes-vous et que faites-vous ici, sœur Véronique?
Je suis née à Saint-Jean-Chrysostome, de la 14e enfant de Napoléon Plante et Philomène Bouffard, cultivateur dans une petite paroisse à une quarantaine de kilomètres de la ville de Québec. Entré chez les sœurs de Saint-Paul de Chartres en 1953, congrégation qui répondait à mes inspirations. venir en aide aux plus démunis de nos frères et sœurs humains. En 1955, j'ai été choisie par ma congrégation avec une campagne pour répondre à la demande des pères assomptionnistes qui demandaient de l'aide pour travailler dans le nouveau pays, Madagascar, où ils ouvraient une nouvelle mission à Tuléa, au sud-ouest de l'île. Arrivé en 1956 sur la Grande Île, où j'ai travaillé 16 ans, déjà nous avions des jeunes sœurs malgaches pour nous remplacer. En 1972, de Mananzar, côte est de l'île, les pères des missions étrangères nous ont appelés à leur tour pour ouvrir un dispensaire dont dépendait la léproserie de Marouvaille. Pour soigner les gens de la brousse qui avaient de la difficulté d'obtenir des soins pour leurs malades. Travailler au dispensaire de Tanamba m'a permis de bien connaître la mentalité et les coutumes de la région. Tandis que sur nos visites du jeudi et samedi à la léproserie de Marouvaille, nous faisions connaissance de cette maladie qui mutile le malade atteint de la lèpre s'il n'est pas soigné précocement. En 1974, j'ai ouvert
un
centre de protection maternelle et infantile pour aider à l'éducation et le soin de leurs enfants, qui avaient des enfants de moins de 5 ans. En 1986, plus de 400 mères assistaient aux séances de puériculture, pesées des enfants, puis pour contrôle de leur poids, et distribution de lait, huile, farine et maïs ou du riz.
Je vous remercie, ma sœur. Vous avez fait en quelque sorte votre curriculum vitae avec un certain brio, une certaine brièveté. Je vous remercie d'avoir répondu à ma question un peu indiscrète. Et donc j'en ai une deuxième et dernière. Je voudrais savoir, je n'ai pas pu le savoir ce matin à la léproserie du docteur Jeanne, qui a fini par m'avouer hors micro que les statistiques n'étaient pas fiables, tout simplement parce que beaucoup de régions de Madagascar sont enclavées et qu'on ne peut pas savoir ce qui s'y passe. Donc je voudrais que vous me disiez si la lèpre et la tuberculose dont vous vous occupez sont les problèmes de santé avec le sida peut-être, les plus graves de Madagascar, et si vous les voyez se développer ou régresser. Donc je vous avertis que le docteur Jeanne m'a dit ce matin que la lèpre reculait. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en dites, ma sœur?
Concernant la lèpre, c'est entendu que s'il n'a pas reculé plus tôt, c'est qu'il y a eu des erreurs de ceux qui étaient destinés à faire le dépistage, mais qui ne l'ont pas fait. On écrivait que des chiffres. Tandis que maintenant, tout le monde s'y met en réalité, sont plus mieux formés, donc la lèpre recule vraiment.
La lèpre recule. La tuberculose, alors?
Tandis que la tuberculose, très peu, elles sont très peu soignées. Donc, ça se multiplie.
Alors, ça explique pourquoi la léproserie de Mananjar a une section pour les tuberculeux également.
Bon.
Et pour finir, qu'est-ce qu'il en est du sida? Parce que dans les guides, on dit non, le sida, pas de problème à Madagascar. Je crois que vous êtes d'un avis différent.
C'est-à-dire, pour le sida, selon notre nouveau président qui travaille fort, qui est le premier président de son organisation, il travaille fort pour pas que ça continue. Mais on a appris que ici, tout près de Mananzar, qui est très loin de Taranari, qu'il y a beaucoup de cas qui se multiplient. Alors c'est là qu'on croit.
Donc là, vous n'affirmez pas que ça se développe, mais vous le craignez, si je vous comprends bien.
Et même parmi les chiffres qu'on nous donne à la télévision, qu'on entend, Eh bien, c'est toujours d'un peu plus haut chaque fois qu'on en parle de nouveau.
Ah bon.
Donc, c'est pourquoi je dis que ça se multiplie et ça m'étonne pas.
Bien. Bon, bah, écoutez, c'est un peu triste, c'est un peu dur, mais ça explique et ça justifie votre présence, votre dévouement.
Peut-être qu'on peut, je pourrais vous dire quelle est la cause, surtout pour le sida. C'est que ce sont plus généralement des filles mères ou des jeunes filles qui ont des enfants et pour faire vivre leurs enfants, se donnent facilement.
Voilà. C'est, dans beaucoup de pays chauds, l'amour est un peu trop facile.
C'est ça.
Avec les conséquences.
À cause de l'argent.
Alors,
ils ramassent l'argent, ils reçoivent l'argent.
Bon, ben, c'est une réalité certainement cruelle que vous avez le courage d'évoquer là, mais bon, nous sommes là pour informer nos auditeurs et il ne fallait pas le cacher. Alors, je vous en remercie beaucoup, monsieur. Bonjour. Jeanne, je suis obligé de vous appeler Jeanne tout court, bien que vous soyez médecin-chef et médecin de permanence, les deux en général, à la léproserie de Madanja, parce que je ne suis pas capable, je l'avoue, de prononcer correctement votre nom, alors même que vous avez eu la gentillesse de l'écrire sur mon blog.
Bonjour,
docteur.
Bonjour, monsieur, et soyez le bienvenu ici à Marbaï.
Qui est donc le quartier de Madanja où est située la léproserie.
Ah,
alors j'ai une question et une seule pour le moment, c'est que la première chose que je constate, même si je ne suis pas capable de déchiffrer votre nom, c'est qu'il est malgache. La sœur qui est à côté de nous et tous les personnels que j'ai remarqués sont malgaches. Donc le peuple malgache s'aide et se soigne lui-même, d'abord. Avant de recevoir l'aide des ONG ou de la Sainte Vierge que je vois sur le mur de votre permanence.
Oui, c'est comme ça. Et pas seulement les malades lépreux, mais même aussi d'autres malades qui viennent ici pour consultation d'autres pathologies.
Oui, alors vous n'avez pas que des lépreux ici, c'est la deuxième chose qui est frappante. Vous avez également des enfants... des tuberculeux, des lépreux qui sont guéris. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu pourquoi? Est-ce qu'ils ne peuvent pas retourner dans leur village?
Oui, on garde tout ça parce que là, vu ces handicaps d'abord, ils ne peuvent pas travailler. Ils sont avant, ce sont les vieux là qui sont restés ici parce qu'ils ne peuvent rien faire. Et avant, comme il y a la mentalité, les lépreux sont des gens qui sont qui ne sont pas bénis, ils n'ont pas la bénédiction alors.
Ils sont maudits au contraire.
Ils sont rejetés.
Ouais.
Et après ça, heureusement bien qu'il y a la léproserie qui s'occupe d'eux.
Excusez-moi, il faut peut-être dire un mot de la lèpre pour nos auditeurs européens, parce que nous, on l'a perdu de vue depuis quelques siècles, et rappeler à certains d'entre eux qui ne le savent pas, que c'est donc ça apparaît d'abord comme une maladie de peau, mais qu'en fait, elle s'en prend au système nerveux.
Oui.
Donc on est à la fois rongé par l'extérieur et l'intérieur. Et donc on se retrouve avec ces handicaps dont vous parlez si la maladie n'est pas soignée assez tôt.
Oui, mais l'handicap n'arrive qu'à plus de 5 ans par là. Mais ça n'arrive pas tout de suite. Oui, et comme vous avez déjà dit là, maladie de la peau. Bien sûr, avec des taches comme les malgaches, nous avons la peau noire là. Les taches sont plus claires. Et il y a deux types de maladies. On les appelle possibacillaires, c'est-à-dire petites avec de moins nombreuses taches que les multibacillaires. Et ça, on les voit même chez les enfants ou chez les adultes. Mais ce qui les différencie, c'est le traitement seulement. L'autre, possibacillaire, c'est seulement à 6 mois. le multibacillaire, le traitement, le double, donc à 12 mois. Et ça, c'est ambulatoire si c'est pas grave.
Ambulatoire, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être hospitalisé.
Assisté. Seulement la première prise, là. Mais là, pendant la prise du traitement des comprimés, il doit être accompagné par une autre personne. C'est ça ce qu'on appelle polychimiothérapie, PCTA. Polychimiothérapie accompagnée, qu'on doit expliquer aussi à ces gens-là, à la famille, pourquoi il doit terminer tous ces médicaments. Donc, il faut encourager aussi l'accompagnant.
De façon à ce que le traitement soit suivi régulièrement, en particulier. Oui. Qu'il n'oublie pas de prendre les médicaments un jour sur deux.
Oui.
Parce que ça, c'est la catastrophe.
Sinon, il va avoir les complications, les amputations, les plaies perforantes. Oui.
Bien.
Donc, pour éviter cela, moi, quelquefois pendant l'éducation, j'ai dit, ça, c'est pas tout à fait la lèpre avec seulement la tache, mais si vous ne suivrez pas bien le traitement, vous avez la vraie lèpre. Je dis comme ça.
Oui, c'est une bonne façon d'expliquer, c'est une façon un peu simple d'expliquer, mais ça correspond à une réalité. Oui, la vraie lèpre, c'est si elle n'est pas soignée à son début, ça devient la vraie lèpre, et là vous allez voir quelque chose.
Et il y a aussi la deuxième signe, c'est la néphrite, c'est-à-dire l'atteinte des nerfs. Il y a nerfs sur le bras, nerfs sur les pieds. Et ça aussi qui entraîne le déboîtement, le stépage et la plaie.
Je vais vous poser une dernière question pour le moment, et c'est celle-ci. Je crois savoir, mais vous allez nous le dire, que le sida n'a presque pas touché Madagascar. Alors si c'est vrai, est-ce qu'on peut dire que la tuberculose et la lèpre, ce sont les principaux problèmes de santé à Madagascar, et est-ce qu'ils sont graves? Est-ce qu'ils sont vraiment graves? Je veux dire, est-ce qu'il y a beaucoup de malades?
D'après ce que j'ai vu là, dans les parties hauts, là, au plateau.
Sur les hauts plateaux, oui.
Sur les hauts plateaux, pas beaucoup de lèpre. Seulement ici, à la côte, je ne sais pas pourquoi.
Est-ce que c'est vraiment le problème de santé publique le plus grave?
Oui, parce que ça a effet sur l'économie nationale.
Oui.
Donc c'est ça la gravité.
Et en nombre, en quantité de malades?
Maintenant, ça va diminuer, je
c'est
crois.
C'est en train de diminuer?
Oui. Parce qu'il y a la
dire.
Sensibilisation, il y a tout, mais... La tuberculose, ça persiste, la tuberculose, mais la lèpre, il y a le programme national qui est d'éradication jusqu'à...
Mais ce sont quelques milliers ou quelques dizaines de milliers de personnes qui sont atteintes ou plus? Autrement dit, Madagascar est un pays en bonne santé. C'est l'impression qu'on a quand on le traverse en voiture comme je l'ai fait. On peut dire que c'est un pays en bonne santé, avec quelques milliers, quelques dizaines de milliers de gens qui sont frappés de maladies terribles. On peut dire ça comme ça, docteur?
Je ne sais pas.
Je ne sais pas. Bon, moi non plus, alors. On va arrêter là.
Sur le talent, nous voulons marquer ta part. Nous avons fait un match contre Amzoumarena et Jumaizawa. Marivan a été mis en Iran et nous avons été mis en Iran. Groupe Suiti, par exemple, Fadadaza et Ivelan.
Il était malgache sur Radio Soleil.
Rassurez-vous, vous n'êtes pas trompé, c'est bien la Radio Soleil FM 90. Je vous aimais de Madagascar, du sud-est de Madagascar, à Mananjar. Et un petit coucou à la radio Courtoisie. Et je salue également Patrick qui est sur le plateau de Radio Soleil.
Bonjour Flavien, merci de votre accueil. Bonjour à Radio Soleil 90 FM Mananjar. Yeah.
je crois que je suis maintenant dans la plus petite sacristie du monde, parce qu'elle fait à peu près 3 mètres carrés. Et c'est la sacristie de l'église catholique, bien sûr, de l'école. Et cette église est, elle, quand même assez grande. J'ai devant moi le directeur de cette école, monsieur...
Donnet.
Monsieur Donnet. Nous allons donc traverser à nouveau cette église pour en sortir. Il y a encore un tableau. Il y a des bancs, bien sûr. Il y a encore un tableau d'école, un tableau noir dans le fond. Une très belle icône. Et il y a une dame qui est en train de préparer sous le crucifix une crèche tropicale avec des palmes qu'elle est en train de tresser. Et c'est vraiment tout à fait ravissant. On voit déjà, sculpté par un artiste local, la Vierge, Saint-Joseph et des anges qui les observent. On va faire quelques pas pour sortir de cette église avec le directeur. Ah, voilà, le Sacré-Cœur de Jésus. Ça ferait plaisir à voir à beaucoup d'amis à moi. Et on va peut-être jeter un coup d'œil dans une classe.
Une salle des classes.
Oui. Alors, combien de classes pour toute cette nuée d'enfants que j'ai aperçue en arrivant ?
4 classes. On a 4 classes ici, de 12e à 8e. Et aussi, j'ai tiens 2 classes. C'est la classe de 9e et 8e.
Vous tenez 2 classes à vous tout seul.
Oui.
On entre dans une de ces classes. Et vous avez combien d'instituteurs avec vous pour vous aider ?
4 instituteurs.
4 instituteurs. Voilà, on est arrivé dans une classe. Alors, il fait sombre, pourquoi ? Parce qu'on est sous les tropiques, qu'il fait très chaud et
qu'on
se protège du soleil.
Oui.
Mais qu'est-ce que je vois sur les bras ? Qu'est-ce que je vois ? Des pupitres tout à fait classiques. Et dessus, il y a des sacs à dos.
Oui. Sacs à dos des élèves.
Qu'est-ce qu'ils mettent dans ces sacs à dos ?
Des cahiers.
Alors aussi. Non, je vois Gina, Frédéric. Les cahiers, toutes leurs affaires ?
Oui.
Parce qu'ils ne vivent pas sur place ?
Ils ne vivent pas sur place.
Ils vont donc manger et dormir plus loin ?
Chez eux. Chez eux au village. Car maintenant, nous allons préparer la fête de Noël. Alors, ils ont mis leurs costumes pour les tableaux vivants ce soir. Alors, ils ont mis leur cartable ici en classe. Et quand la fête est terminée, ils prennent leur cartable et vont avec eux chez eux.
C'est votre classe,
oui, c'est ma classe ici.
Monsieur. Donc, je me retourne vers le tableau noir et je vois que je comprends rien parce que vous enseignez en malgache.
Oui. Mais actuellement, le programme scolaire malgache...
Oui, est-ce que c'est encore la malgachisation à outrance ?
C'est la francisation. Si
c'est la francisation, ça va et ça vient. Les pauvres instituteurs deviennent fous, quoi. Un coup, la malgachisation, un coup... Vous savez, il y a eu la même chose en Russie, au sud de la Russie.
Ah bon ?
Au début, c'était l'Ukrainisé pour les Ukrainiens. Il fallait qu'ils ne parlent qu'en ukrainien. Six mois après, ceux qui parlaient l'ukrainien étaient des traîtres. Ça, c'est la vie sociale, hein, dans certains pays. Bon, alors, en tout cas, maintenant, vous enseignez... Le français et le malgache. Là, je tombe sur une leçon de malgache.
Oui, là, c'est une chanson malgache.
Que je vais entendre
ce soir. Oui. Et ici, le programme scolaire, les malgaches et les catéchises, seulement qu'on fait en malgache. L'histogio, les connaissances usuelles. Le français, évidemment, sont en français.
Il ne faut pas perdre de vue que c'est une école catholique, donc le catéchisme a une place importante.
Oui.
Bon, eh bien, on va peut-être faire quelques pas dehors et puis entendre, sans les déranger, hein, sans les effrayer, on va entendre dans le passage gazouiller les enfants. Et on va faire quelques pas autour d'un chantier. Qu'est-ce que c'est que ce chantier, monsieur le directeur ?
Ce chantier est une nouvelle classe ? Un nouvel bâtiment qu'on a construit cette année pour élargir notre école. Parce qu'avant, il n'y a que 3 classes. Et l'autre en haut, c'est...
Vous avez dit 4 tout à l'heure.
Oui, 4.
Alors, c'est 3 ou 4 ? Vous en avez trois maintenant et on construit
deux
de plus. Donc vous avez trois et ce sera cinq bientôt.
Cinq, oui.
C'est un joli cadeau de Noël pour vous, ça. Alors, bon, je vais pas décrire le chantier de A à Z, mais enfin, c'est tout à fait sérieux. Je vois qu'on travaille avec des parpaings. Bon, il y a une dizaine d'ouvriers qui sont actifs, hein, très actifs même, en plein soleil. Ils sont courageux, ils ont des échafaudages qui sont faits avec les moyens du bord, avec du bois qu'ils ont assemblé, d'ailleurs sans tellement le fixer, avec beaucoup d'adresse. Mais je vois aussi que la technique du béton armé est tout à fait maîtrisée, donc c'est assez frappant et même assez émouvant dans ce beau paysage tropical très lointain de voir confronter donc des techniques d'échafaudage primitives, disons-le, et puis une maîtrise visiblement très complète de la technique du béton armé. Voilà, on va faire quelques pas sans parler, on va arrêter de parler, on va simplement traverser quelques groupes d'enfants en essayant de pas les déranger, de pas les intimider, simplement pendant une minute ou deux, les écouter gazouiller, parce que bon, ce sont beaucoup d'enfants de lépreux, de gens qui ne peuvent plus travailler, qui sont donc plutôt indigents, plutôt malheureux, mais comme presque toujours à Madagascar, ils font face avec le sourire et avec une joie de vivre qui saute aux yeux. Bonjour les enfants.
Bonjour.
Ça va bien? Vous êtes contents de fêter Noël ce soir? Vous avez travaillé et répété les chansons, les chants de Noël? Est-ce qu'il faut leur traduire? Est-ce qu'il faut que vous leur traduisiez ma question? Ou est-ce qu'ils me comprennent?
Ouais. Non, ils ne comprenaient pas.
Est-ce que vous pouvez leur traduire ma question?
Oui.
Bonjour, ils ont compris, certainement. Oui. Est-ce que vous êtes contents, les enfants, et est-ce que vous avez bien travaillé pour faire une belle fête ce soir, pour Noël?
Oui.
Bon.
D'accord.
Alors, je vais vous voir ce soir, et je vais vous écouter chanter ce soir, et les auditeurs de ma radio aussi. À ce soir, les enfants. Au revoir, à tout à l'heure.
Au revoir.
Thomas.
Vous écoutez Radio Courtoisie, restez avec nous pour la suite de notre reportage à Madagascar. Une petite note personnelle, je commençais à m'étonner, sinon à m'inquiéter de ne voir dans cette léproserie que des enfants en pleine santé. Et puis à l'instant, il y a une espèce
vieux bonhomme qui avait tout de, du joueur de banjo du Mississippi avec même le chapeau de paille et qui est venu tout droit sur moi pour me serrer la main. Et ça aurait été quand même plus convivial s'il avait eu des doigts.
Yeah.
faut-il le dire, nous ne sommes pas, nous n'assistons pas à la messe de minuit, mais à la messe de 18h à Madanjari sur la côte est de Madagascar. Et les auditeurs attentifs ont compris, ont deviné que cette messe est vécue et partagée par une population extrêmement saine et juvénile, celle de l'école, extrêmement peuplée, qui jouxte la léproserie de Mananjari, nous l'avons déjà dit, principalement des enfants de lépreux, des enfants indigents, mais qui sont vraiment, j'ai pu le voir tout cet après-midi, extrêmement bien soignés, qui ont l'air très heureux. Nous sommes le 26 décembre aujourd'hui, de retour à la léproserie de Mananjari, et je suis assis entre le médecin-chef, que j'appelle Jeanne tout court, parce que je suis toujours pas capable de prononcer son nom, et un malade de la lèpre qu'elle a bien voulu nous aider à interviewer. Bonjour docteur.
Bonjour monsieur.
Et bonjour monsieur, monsieur comment ?
Jean-Baptiste,
voilà. Alors le docteur, l'entretien avec Jean-Baptiste va se dérouler en malgache, et le docteur a l'obligeance de traduire. De quelle région de Madagascar êtes-vous, Jean-Baptiste ? Approchez-vous un peu. Approchez-vous un peu de moi, Jean-Baptiste, on vous entendra mieux. Voilà.
Je viens de Fenaratsua, originaire de Fenaratsua, sur les hauts plateaux.
Sur les hauts plateaux. Voilà. Et donc, il était cultivateur.
Pambouli, tenez-nous une chaleur.
Des pambouli, nous l'ensaratons dans des.
Les cultivateurs. C'était son père qui a travaillé à Nouchevarkia, un peu au nord de Mananzar. C'est pour là qu'il est resté ici, à Tramvinama. Déjà 10 ans qu'il a commencé. Il faut mourir.
À 10 ans,
avant d'arriver ici, qu'il avait les doigts à commencer à être amputés,
atrophiés. Donc c'est-à-dire les symptômes les plus graves, c'est ce qui veut dire atteinte nerveuse et amputation. Mmh. Et avant, il ne s'est aperçu de rien.
Ouais.
Et il n'a jamais vu de médecin qui lui aurait signalé.
C'est déjà avec les symptômes d'amputation qu'il a commencé le traitement.
Les taches du début de la lèpre, il n'a pas fait attention.
Non.
Pour lui, c'était des bobos sans importance. La raison, c'est qu'il était dans la campagne, complètement isolé, et que pendant toutes ces années, il n'a jamais vu de médecin.
On a déjà commencé à traiter les taches, mais ils ont consulté pas tout à fait les médecins, mais les soignants du village à ce moment-là. Mais on n'a pas pris attention que c'est vraiment...
Ils n'avaient pas de formation, peut-être, ces aides-soignants.
Oui, oui. Alors c'est pour ça que ça a continué comme ça.
Bon, alors est-ce qu'on peut parler de son avenir ? Est-ce qu'il va falloir qu'il reste à la léproserie ? Parce que vous m'avez expliqué déjà dans notre entretien que... Et Sœur Véronique a complété d'ailleurs ce matin dans un entretien privé. Le problème surtout, c'est qu'ils peuvent pas travailler. Il y a moins de malédictions contre leur état, contre leur maladie, qui est moins redoutée, et la contagion, que le fait qu'ils peuvent pas travailler. Donc, est-ce qu'il va devoir rester ici ? Qu'est-ce qu'il va devenir, quoi, cet homme qui a 55 ans et qui est pratiquement amputé de tous les doigts ? Ah bon, ils peuvent retourner alors dans...
Il pense que pas retourner à la famille, mais retourner à l'autre léproserie de Fénard, à Marane. Mais là, c'est Sœur Véronique qui a proposé tout ça. Mais jusqu'à maintenant, il ne sait pas pourquoi il reste encore ici.
Bon.
C'est ça. Donc, pas d'idée pour l'avenir.
Bon.
Ça dépend de Sœur Véronique, tout ça.
Bon, mais Je pense que là, on a... Vous êtes d'accord, docteur? On a fait à peu près le tour de la situation d'un lépreux dont le cas est avancé, l'âge aussi, et la situation difficile. Et on peut dire que, surtout, ça montre la nécessité de la prévention, parce que la lèpre, on l'a dit, se traite bien si elle est prise à son début, et que, bon, c'est, voilà un monsieur qui est vraiment dans une situation très difficile maintenant, avec ses amputations, la pauvreté... Toujours Patrick Goffman au micro. Nous sommes le 27 décembre dans la région de Tamanjari sur la côte est de Madagascar, et aujourd'hui mon guide, le célèbre Léo, m'a abandonné au bord d'une piste. Il faut dire qu'il n'a pas que ça à faire, qu'il a toutes sortes d'activités familiales et professionnelles. Et j'ai rendez-vous avec un docteur Arthur. J'espère qu'il va arriver. Je sais qu'il n'y a pas de grands prédateurs à Madagascar et que les serpents venimeux ne sont pas mortels, mais j'aimerais quand même bien le voir arriver. J'aimerais, disais-je, le voir arriver. Ah oui, le voilà. Le voilà, je l'aperçois. Arrêtez, docteur, arrêtez-vous, c'est moi. C'est moi qui ai rendez-vous avec vous pour la radio française. Je suis un peu étonné de vous voir arriver en motocyclette, et une belle moto rutilante rouge. Voilà, merci, oui, ça va, ça va mieux sans le moteur. Vous avez un polo assez élégant, on a l'impression que vous vous promenez, d'autant qu'on est au bord de la mer. Non, docteur, vous ne vous promenez pas sur cette moto, qu'est-ce que vous faites exactement?
Oui, je ne suis pas en promenade, mais je suis en tournée de contrôle. Je suis en tournée de contrôle des infirmiers qui est en tournée dans les districts. Ils sont partis pour le dépistage. Alors, je suis venu pour les contrôler.
Vous êtes le responsable donc sur la région sud-est. Il y a six régions. Corrigez-moi si je me trompe. Hein. Il y a six grandes régions provinces à Madagascar. Et donc, vous êtes le responsable de la région sud-est donc pour ce programme de détection qui utilise des motos. Alors, il faut dire pourquoi. Je le sais déjà, mais dites-le vous-même. Pourquoi des motos? Puisque c'est pas pour s'amuser.
Oui, il y a six provinces à Madagascar, et pour ce micro-projet Folero, nous avons choisi la province de Fenaratu. Et dans cette province de Fenaratu, il y a six districts que nous appuyons dans la lutte contre la lèpre. Six districts du sud-est. Nous sommes obligés, bien sûr, d'utiliser la moto parce que l'état de la route n'est pas du tout praticable avec l'auto. Et dans cette région, nous utilisons six motos, une dans chaque district.
Voilà, alors si je comprends bien, ça vous permet d'aller dépister, rechercher, traquer le bacille de la lèpre dans des régions qui ne sont pas accessibles autrement à cause de l'état des routes. Donc vous devez commencer, ça fait quelque temps que ça dure ce programme, vous devez commencer à pouvoir répondre à une question à laquelle j'ai pas eu de réponse jusqu'à maintenant, c'est où en est-on? Est-ce que la lèpre recule?
Est-ce qu'elle avance? Est-ce qu'elle est stationnaire? Est-ce que vous pouvez me donner des chiffres? J'en ai pas obtenu jusqu'à maintenant. Ou une approximation, ou une tendance.
Oui. Concernant la lèpre, la statistique n'est pas tout à fait fiable. Alors, c'est pourquoi même que Follero a décidé de lancer ce micro-projet.
En accord avec le gouvernement malgache, oui, je crois que c'est un programme national.
Oui. Nous travaillons avec le programme national et nous sommes en train de nettoyer les registres pour avoir les données beaucoup plus fiables. C'est dans le cadre de la mise à jour, quoi. Nous essayons de nettoyer les registres pour avoir des données beaucoup plus fiables qu'avant. Parce qu'avant, nous avons beaucoup de problèmes pour interpréter ces chiffres. Parce qu'il y a dans certains centres, il y a d'autres maladies considérées à tort comme lèpre.
Et au contraire, des cas de lèpre, comme celui de Jean-Baptiste que j'ai vu hier, qui a été dépisté trop tard et maintenant qui n'a plus de doigts.
Oui, c'est très très triste
d'en arriver là. Vos infirmiers, alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'emportent pas un microscope, je suppose. Ils ne sont pas compétents pour ça. Ils examinent la peau des gens pour voir s'il y a les taches du début de la lèpre. Et en cas de doute, ils font un frottis ou ils vous les amènent. Comment ça se passe? Ou c'est vous qui allez sur place?
Oui. Actuellement, ce sont les infirmiers qui font les dépistages et Follero appuie du point de vue financier et du point de vue technique aussi avec ce micro-projet. Et les infirmiers et quelquefois aussi les médecins, ils vont dans les zones enclavées avec la moto pour les dépistages. Et quand il y a les cas, on commence tout de suite les traitements et devant les cas douteux, on fait les prélèvements et on amène le prélèvement au labo.
Il y a un laboratoire pour
par district.
Par district.
Oui, et c'est dans ce cadre, justement, nous venons d'organiser une formation à Farafangan pour les six districts, pour les techniciens de laboratoire des six districts à Farafangan. Au mois de septembre.
Bien. Bon, docteur, je vous remercie. Je crois qu'on va abréger parce que je pense que nos auditeurs entendent l'interview un peu entrecoupée par le vent. Il faut leur dire qu'on a eu une espèce de petit avorton de début de cyclone hier avec... bon, je plaisante, on a cru que c'était le début d'un cyclone. Moi, je l'ai cru. Ça s'est calmé, mais il y a encore pas mal de vent. Hein. Madagascar est sujet à des sautes de météo brutales. Je vous remercie, docteur, et bravo pour ce que vous faites, et à bientôt. Voilà, c'est la fin de notre reportage enregistré à Madagascar. Dans l'intervalle, nous avons reçu une grande lettre, une grande télécopie d'une auditrice qui a vécu longuement à Madagascar, une très belle lettre, très émouvante. Elle nous pose des questions sur les problèmes économiques et politiques de Madagascar, le fait que le tourisme ait été coulé par la révolution socialiste imposée par M. Ratsirak au milieu des années 70. Alors, elle nous demande où ça en est. Bon, alors en deux mots, ça va mieux depuis l'élection de Marc Ravalomanana avec le soutien de toutes les congrégations religieuses chrétiennes en 2002. Je réponds plus longuement à ces questions dans le reportage écrit que vient de publier le Libre Journal imprimé, numéro 311, et notamment bon, les gens qui ont aimé, comme cette auditrice, qui ont apprécié, qui ont suivi ce reportage, retrouveront en photographie les visages d'à peu près toutes les personnes qu'elles viennent d'entendre. Alors, il faut donc commander ce numéro contre un carnet de timbre. C'est le numéro 311 à SDB 4 Place France List 75 010 Paris. Je rappelle pour finir, avant de céder la parole à Victoria, je rappelle pour finir que le 25 janvier prochain, ce sera la journée mondiale contre la lèpre et que donc en première ligne, la fondation Raoul Follero que j'ai vue en action là-bas, qui entretient 30 léproseries, qui finance donc ces dizaines de motos qui traquent par des pistes impraticables le bacille de Hansen dans les montagnes et la jungle,
font appel à votre générosité. Et je crois savoir qu'elle a même besoin de quêteurs. Donc je rappelle l'adresse et j'indique le téléphone qui m'est parvenu. Raoul Folreau, boîte postale 79-75-015 Paris. Le site, c'est raoul-folreau.org et le téléphone, c'est 01-53-68-98-98.
Merci Patrick Goffman. Victoria, vous avez la parole pour les annonces. Il vous reste 4 minutes.
C'est parti, Paris. Demain, jeudi 15 janvier, à 20h, dans le cadre des cercles littéraires du Roseau d'Or, Olivier de Bois-Boissel parlera de Michel de Gelderode au parloir du Colombier, 9 rue du Vieux Colombier, Paris 6e, entrée libre. Le docteur d'Or et SOS Tout-Petit vous invite à venir prier demain, jeudi 15 janvier, à 19h, à proximité du siège national du planning familial, 4 Square Saint-Irénée, à l'angle du boulevard Voltaire et de la rue La Charrière, dans le 11e. Demain encore, 15 janvier, à partir de 21h, dans l'émission envoyée spéciale, Voyage au pays des Mollahs, un reportage exceptionnel sur l'Iran, réalisé en caméra cachée par une journaliste canadienne indépendante, montrant pour la première fois crûment la barbarie islamiste du régime des ayatollahs en Iran. À ne pas manquer. Le docteur Niem signera 2 livres, La violence des jeunes et le cerveau reptilien, édition Concept, numéro spécial des cahiers Saint-Raphaël, sur les essais de la musique. À la librairie Duquesne, 27 avenue Duquesne, samedi 17 janvier, de 14 à 18h. Le 17 janvier aussi, à 19h30, dîner-débat avec Camille Gallic, Quel avenir pour la presse d'opinion, au restaurant La Petite Auberge, 48 avenue du Président Wilson, à l'email Brevan. Renseignements et réservations au 06 09 16 21 32. Réunion organisée par l'association culturelle La Vigie. À Paris, pour l'anniversaire de la mort du roi Louis XVI, la Fédération royaliste du Maine fera célébrer une messe selon le rite traditionnel le 17 janvier à 11h en l'église de Notre-Dame-du-Pré, Sarthe, à 14 km de Sablé, suivi à 12h30 d'un déjeuner-débat à la salle des fêtes avec Hilaire de Crémier, délégué général de la Restauration nationale et directeur de Politique Magazine. Problème d'actualité, qu'en pensent les royalistes? Renseignements et inscriptions, 02 43 98 43 44. Réunion mensuelle de Omnes Fratres, 19 rue des Tanneries à Paris 13e, dimanche 18 janvier, de 14h45 à 18h. 14h45, problèmes sociaux de la démographie par Monsieur Rochas. Et 16h30, une société plus solidaire, un besoin contemporain par Monsieur Jean-Pierre Dutrieux. Mercredi 21 janvier, en l'église, en messe pontificale de Réquiem, en la cathédrale Sainte-Rita, mercredi 21 janvier, donc à 18h, à la mémoire de Sa Majesté le roi Louis XVI. 27 rue François Bonin, Paris, téléphone.
Victoria, nous n'avons plus le temps. C'est terminé. Je signale que la réunion avec Camille Gallic, qu'on vient de l'annoncer à l'email Brevan, est annulée. Donc ne tenez pas compte de ce qui a été dit. Bonne semaine, que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 14 janvier 2004 de 18 à 21h, en différé jeudi 15, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30.